Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité.
Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi.
Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains.
Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs.
L'Europe a besoin de migrants. On en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent.
En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés.
On appelle ça l'altruisme intéressé.
Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 25. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous contacter sur notre adresse email démocratieparticipative en un seul mot, pas d'accent, sur démocratie@protonmail.com. Je répète, démocratieparticipative en un seul mot, pas d'accent, sur démocratie@protonmail.com. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous inscrire sur le forum Europe Écologie Les Brins à l'adresse suivante eelb.su. Je répète, eelb.su. Vous pouvez comme ça discuter avec d'autres personnes de tas de sujets d'actualité ou de sujets informatiques et tant d'autres. Avant de passer au don, je vais présenter les membres. Je vais commencer avec Pierrot qui nous fait le plaisir d'être avec nous cette semaine. Salut à toi, cher Pierrot.
Salut Gandalf, salut à tout le monde.
Magdav est aussi avec nous cette semaine. Salut Magdav.
Ave, cher démocrate.
Ave, Magdav, ave. Fulbert aussi est présent avec nous cette semaine. J'espère qu'il se porte bien, notre ami Fulbert.
Oui, je te rassure, Gandalf. Bonjour à toi et bonjour à tous.
Enfin, est présent aussi avec nous ce cher cardinal qui devient presque une figure publique maintenant. Il y a des productions d'images qui se multiplient. Le cardinal d'Eric, bien sûr, dont le sacerdoce fait l'admiration. Fait l'admiration et dépasse les frontières. Salut à toi, cher cardinal.
Bon, il y a un culte des icônes, effectivement, qui se développe. Bon, ça mènera peut-être à un schisme prochainement, on ne sait jamais. Mais oui, écoute, ça va comme chaque semaine, formidablement bien.
Écoute, très bien, je suis content de le savoir. Alors, maintenant, j'invite nos auditeurs qui le souhaitent à nous soutenir en nous faisant des dons en crypto-monnaie, plus spécifiquement en usant Monero. Il y a un guide explicatif sur le site de Démocratie Participative, à droite, qui vous donne les grandes lignes pour faire ce type de transaction. Comme je le dis souvent dans l'émission, il est bon, d'une manière générale, de se familiariser avec les crypto-monnaies. Nous avons reçu plusieurs dons cette semaine, nous en recevons en fait toutes les semaines, mais tous les donateurs ne se manifestent pas nécessairement, tous nos mécènes ne nous écrivent pas pour nous informer qu'ils ont fait un don. Alors, on a un jeune Alsacien, c'est comme ça qu'il a signé, qui nous a fait un premier don. Bonjour, je vous ai envoyé un premier petit don de 0,25 Monero via MyMonero, en espérant que vous l'ayez bien reçu. Si je passe à l'antenne, je souhaiterais simplement saluer mon ami et camarade Cartman, qui se reconnaîtra. Eh bien, le message est passé et merci à toi, jeune Alsacien, de ton soutien. Ça nous fait très plaisir, bien sûr. Don numéro 2. Only white lives matter. Seule la vie des blancs compte. Malgré votre soutien sans faille à l'église de négrolatrie représentée par le cardinal Derrick, je sais que le pluralisme porté par votre émission vous permettra de lire à l'antenne ce message. C'est Melas Autocrator qui nous écrit ça. On remercie beaucoup Melas Autocrator. C'est un donateur régulier, son nom revient souvent. Donc on le remercie pour sa fidélité. Don numéro 3, bonjour à toute l'équipe, je viens de vous envoyer 35 euros au titre du mois de juillet. Je tiens particulièrement à vous remercier pour la visibilité que vous offrez à Vincent Renoir et à son long et patient travail de démythification. Si vous le permettez, j'invite tous ceux qui le souhaitent et le peuvent à le soutenir en lui adressant des dons d'avance merci bien amicalement, et c'est Jean qu'on connaît aussi, un donateur régulier. Alors si vous souhaitez soutenir Vincent Renoir, si vous aimez beaucoup son travail, c'est un travail très pointu, en sachant qu'il il produit beaucoup de livres. D'accord, on voit beaucoup ses vidéos, mais il produit aussi beaucoup de livres. Il faut se
acheter
rendre...
ses bouquins.
Voilà, il y a des bouquins, il y a des bouquins. Il n'y a pas que des vidéos, il y a des bouquins. Alors, c'est sur son site, c'est le blog sans concession. Blog sans concession, vous tapez ça dans Google ou DuckDuckGo. Voilà, blog sans concession, vous allez trouver tout de suite. Et là-dessus, vous pouvez éventuellement le soutenir. Mais la meilleure façon de le soutenir, en fait, c'est d'acheter ses livres, hein, tout simplement. C'est très complet. Très pointu, donc n'hésitez pas, hein, et vous allez découvrir des tas de choses dont on ne vous a jamais parlé, dont les... que ce soit à l'école ou dans les médias, quoi. Hein. Donc,
oui, là, c'était la semaine au Radour.
Tout à fait. Ça s'y prêtait vraiment bien. Comme il nous dit, hein, le Jean dans son courrier, il nous dit c'est bien que vous donnez de la visibilité. Bon, bah, c'est la moindre des choses déjà d'une part, mais ensuite le travail que fournit Vincent Renoir est quand même de grande qualité, hein, donc il faut c'est très utile. Et la série sur Oradour était aussi très pertinente avec... parce que ça, c'est un des grands mythes. Alors bon, l'histoire est controversée, on va pas rentrer dans les détails, mais comme beaucoup d'épisodes de ce type, en fait, les communistes ont totalement réécrit les faits. Et donc 80 ans après, non là c'est 75 ans, mais 75 ans, 76 ans après les faits, c'est toujours la version communiste qui est répétée à l'envi, y compris in situ, hein. Voilà. Donc c'est pour ça que ce type de travail est extrêmement utile.
Bah, c'est la seule qui est légale ou autorisée, quoi. On aimerait bien pouvoir en parler, mais les juifs nous disent non, c'est illégal, taisez-vous, croyez-nous sur parole. Bon.
Bah, dans sa série, Vincent Renoir explique bien qu'il avait produit dans les années, je crois que c'est les années 90, je crois, une brochure sur la question d'Oradour-sur-Glane, et le ministère de l'Intérieur est intervenu pour la censurer, pour l'empêcher de paraître, ce qui est quand même assez extraordinaire. Alors évidemment, ça nous paraît aujourd'hui un peu dérisoire, parce qu'à l'heure d'Internet, évidemment... c'est, comment dirais-je, ce type de méthodes sont devenues complètement obsolètes. On ne peut plus empêcher quelqu'un de diffuser quelque chose qu'il a écrit. Mais à l'époque, ils en étaient encore à ce type de méthodes très archaïques, très, très primitives, finalement, pour faire taire Vincent Renoir. Mais ça en dit long. C'est-à-dire que si ce qu'il disait était absurde, vous n'avez aucun besoin de... Il n'y a aucun besoin pour le gouvernement d'intervenir directement pour empêcher à tout prix l'apparition de la brochure, vous comprenez ? N'importe quel esprit critique lisant la brochure se rendrait compte que ce serait faux, n'est-ce pas ? Or, c'est précisément l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, cet effort démontre que ce qu'avance Vincent Renoir est très, très, très crédible, et notamment sur ce fameux incendie. Moi, quand j'étais gamin, on nous sortait cette histoire-là pour faire peur aux enfants, vous savez. Les Allemands avaient brûlé vifs les enfants dans l'église, vous savez, comble de l'horreur. Et on découvre en fait que pas du tout en fait, hein. C'est très probablement une explosion accidentelle d'une cache d'armes se situant dans le clocher qui a, par effet de souffle, tué les personnes qui avaient été simplement mises dans l'église à ce moment-là pour une raison toute simple, c'est que c'était le seul espace de grande dimension où on pouvait mettre les civils pendant que les Allemands faisaient leur opération de traque des différents groupes armés du secteur. Alors Vincent Renoir explique ça très bien dans cette série de vidéos, donc je recommande effectivement, et d'une manière plus générale, je me répète, mais ça va mieux en le disant, rendez-vous sur son blog, et achetez ses revues, ses brochures, ses différentes publications, ses livres, ses ouvrages, ça sera la meilleure façon de le soutenir et de l'encourager, voilà. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose là-dessus, sur un point précis, de ce qu'a pu faire ou dire Vincent Renoir ces derniers temps ? Pas spécialement, d'accord. Alors, don numéro 4. Bonjour à tous, je me suis permis de vous adresser mon premier don crypto d'un montant d'un demi-monero en remerciant des précieuses heures passées à vous suivre depuis plusieurs mois déjà. Cordiale salutation, et c'est signé Fritz qui nous demande si la transaction est bien passée. On va vérifier tout ça, Fritz. On va vérifier tout ça et on enverra accusé de réception. En tout cas, le message est bien reçu. Rubrique numéro 1, chers amis, c'est courrier des lecteurs. On est toujours très content de recevoir des courriers des lecteurs. Aussi, n'hésitez pas à nous envoyer un témoignage si vous en avez l'opportunité. Alors, bonjour, chers amis démocrates participatifs. Je commence par vous féliciter et vous remercier pour votre œuvre de salubrité publique au service du monde blanc. Comme beaucoup d'autres, j'ai longtemps erré avant de découvrir votre site, vos articles et votre émission hebdomadaire. Comme beaucoup d'autres, je suis devenu totalement addict. Comme beaucoup d'autres, je me suis laissé aveugler et abuser par le Front National. J'ai passé des décennies à y militer, à donner de mon temps, de mon énergie et de mon argent pour finalement découvrir que j'avais affaire à une bande d'escrocs. Alors, je travaille pour une grosse entreprise multinationale américaine, dont je suis obligé de taire le nom pour des raisons de discrétion, qui a, on est sur plus de 100 000 employés dans le monde entier. Le politiquement correct y règne en maître, mais surtout, lorsque l'on travaille pour une telle entreprise, on est tenu d'adopter une vision et un point de vue américain, quelle que soit sa nationalité et son lieu de travail. Que vous soyez chinois en Chine, indien en Inde, arabe aux Émirats, péruvien au Pérou, français en France, vous devez avant tout penser et agir en américain. Ainsi, la communication interne vous invite systématiquement à vous sentir concerné par le Black History Month, donc c'est le mois de l'histoire noire aux États-Unis, c'est un événement officiel. Le Pride Month, donc ça c'est le mois LGBT, etc., etc. Sans oublier la célébration de Our Veterans, donc nos vétérans, donc là les vétérans de l'armée, les anciens combattants américains. C'est sûr, les Français, Indiens et Chinois en ont à chaque fois la larme à l'œil. Avec l'hystérie en cours sur la mort de la porn star George Floyd, on a aussi eu droit à un communiqué à la fois larmoyant et menaçant, lettre qu'il nous communique d'ailleurs en pièce jointe. J'ai surligné en jaune les passages qui me semblent les plus emblématiques. Alors, évidemment, je ne peux pas le rendre à l'oral, mais vous avez compris l'idée. Dès la première phrase, le ton est donné. Donc là, je cite, « Comme vous, j'ai été personnellement indigné par le meurtre de George Floyd et de beaucoup d'autres Noirs dans nos communautés US. Ce « comme vous » a un caractère exclusif très violent. Je ne me sens pas concerné, je suis donc exclu d'emblée du communiqué. » Et que dire de « nos communautés US » ? Ah, on a la réponse ici. Je cite, « Embrasser totalement les principes d'inclusion et de diversité sont des exigences pour travailler ici. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ne faites pas partie de... » Bon, là, le nom de la boîte. Saint-Just disait « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Eh bien, mon entreprise dit « Pas d'inclusion pour les ennemis de l'inclusion ». J'entends déjà les ouvriers préparer l'échafaud. Il y a toute une autre série de détails. Hein, qui dit par exemple qu'on apprend l'existence de chapitres dans l'entreprise pour les Black Employees Network, donc les réseaux d'employés noirs, donc ils racialisent les réseaux internes dans l'entreprise, sauf pour les blancs. À tout hasard, j'ai chargé le site web du White Employees Network, sans succès. Enfin, pour les plus durs de la feuille, il est rappelé que si vous n'êtes pas dans la ligne politique raciale de la société, vous serez viré. Inclusion oblige, bien sûr. Alors, après, il nous donne aussi les petites coordonnées du personnel, notamment ressources humaines, là, et ce sont des noms à forte connotation polonaise. Et c'est étonnant, oui. Un peu curieux, oui. Mais polonais. Alors, on remercie, alors c'est signé, c'est signé Joseph G. Je ne sais pas à qui faire allusion, il se reconnaîtra, on le remercie pour son courrier. Alors, c'est quand vous êtes dans le monde de quand vous êtes dans une très grande entreprise multinationale américaine, vous subissez l'ingénierie sociale qui est totalement intégrée dans ce monde de l'entreprise avec ce qu'ils appellent la diversité, bon, on va revenir là-dessus, au cœur du dispositif du management. Hein, voilà. Alors qui veut, je pense qu'on a déjà eu ce type, dans d'autres courriers, il y avait des gens qui étaient en France dans des entreprises aussi comme ça multinationales et où ils faisaient allusion à cette espèce de mise au pas idéologique des salariés. Hein. Ouais.
On avait eu des témoignages dans l'ingénierie informatique. C'était ça, donc la mise en place. Là c'est quand même un niveau un petit peu plus C'est carrément grossier, c'est-à-dire que tu as on calque le plan de l'entreprise américaine avec donc le truc nos vétérans, alors,
Pas le truc du
vétérans
gouvernement,
de
quoi.
l'armée américaine, ouais, non, mais du gouvernement américain, mais bon, c'est bateau quoi. Et bon, les PD, bien
Ouais.
entendu, hein, c'est le mot des PD, ça c'est on n'y échappe plus. Ça fait partie du package et les nègres, donc les bis. Donc là, c'est
Attends, mais
quoi
le mois de l'histoire noire, quoi, ils ont une histoire, ces gens?
Ah oui,
ah, ça doit aller vite, hein. Ça prend un jour, je crois.
Non, mais genre, tu sens le forcing,
Et
c'est-à-dire
non.
qu'ils en ont tellement pas, toi, t'es obligé de faire un mois spécifique pour aller essayer de trouver, dénicher, dégoter des trucs. Je sais pas si vous avez vu, là, récemment, là, ils ont rebaptisé le sang de la NASA, là, du nom d'une négresse qui avait dû, je sais pas quoi,
Oui,
faire
il y avait une
trois
négresse
calculs, ouais. Oh
qui
non.
faisait des qui changeait des piles, tu vois,
Ouais.
dans les trucs.
Attends, mais on en a
Donc
fait un film à sa gloire, à cette négresse,
c'est
hein.
ça, bah,
ils en
ils
ont
ont.
fait une série sur Netflix aussi, je crois.
Alors, j'attends impatiemment la débaptisation de tous les espaces possibles qui sont encore du nom de Werner von Braun dans les bâtiments de la NASA. Je pense que ça ne saurait tarder. Hein. Bon, lui, pour le coup, il a
Bon,
vraiment. C'est pas encore fait, je sais pas, mais bon.
ça serait intéressant de savoir ce qui est le sort réservé à la postérité de Werner von Braun, hein, vu qu'il était très méchant. Hein. Mais bon.
Oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, Werner von Braun, en fait, est un ancien scientifique de la SS qui supervisait le programme de, comment dirais-je,
Les V2.
de missiles, ouais, de missiles balistiques allemands et, par voie de conséquence, des prémices, en fait, des programmes spatiaux. Et c'est lui qui a complètement, il a été recruté par l'armée américaine tout de suite en 1945 et il a totalement pensé le programme spatial américain. Hein.
Ouais, enfin, c'est lui qui a c'est lui
C'est lui qui a
l'architecte
conquis la
de
Lune,
ça,
quoi, hein,
hein.
tout simplement. Voilà.
Ouais. Ah, oui.
Ouais, alors petite précision du coup pour ce personnage-là, en fait, donc il était recruté par la NASA et en fait il avait en plus de son haut QI, il avait une grande qualité, c'est qu'il était très bien entouré. Et en fait, toute son équipe a été recrutée par la NASA. Et je crois qu'on parle d'une cinquantaine de personnes tu vois, d'Allemands déterminés avec des très hauts QI qui ont, bah, on peut dire, hein, qui ont construit la NASA, en fait, voilà, qui l'ont révolutionné.
Ça
Oui,
ça nous
les Allemands
ouais.
avaient une avance dès les années 30 dans le, on va dire, dans tout ce qui était fusée et propulsion à poudre. Ouais.
Ah, vous imaginez ce que ça aurait pu donner si le Troisième Reich avait gagné?
Bah, si tu veux, les crédits qui étaient, comment dire, engagés dans ces projets étaient très importants.
Ouais.
Et quelque part, ils ont, je vais pas dire contribué à la défaite du Reich, mais ils auraient pu être engagés beaucoup plus, on va dire, pragmatiquement. C'est un peu le problème de l'Allemagne, beaucoup trop
Ouais,
grandeur.
tout à fait.
c'était un pari, quoi. S'ils arrivaient plus tôt à finaliser leur technologie, ça aurait été aussi davantage décisif.
En tout cas, donc je disais ça comme ça, juste en passant. Donc il y a un effort je sais même pas, c'est même pas, c'est de promotion parce que c'est vraiment une réécriture historique grotesque où ils sont obligés de chercher quelques noms de noirs ici ou là pour essayer d'en faire des icônes, pour essayer de contrebalancer en fait le fait central des 500 dernières années, c'est la domination absolue de l'homme blanc sur la marche du monde, quoi. Toutes les grandes découvertes scientifiques ont été réalisées par des blancs. Bon, voilà quoi. C'est et donc voilà. Donc les employés de ces grandes multinationales américaines bah, subissent bah, cette
Le
mise au pas. Hein.
terrorisme.
Bah voilà, on leur dit voilà, vénérez les nègres quoi. Bon, on est dans une phase d'humiliation complète des populations blanches. Et c'est, comment dirais-je, organisé avec une très grande rigueur. Hein. C'est pas fait au pif.
Absolument. Alors d'ailleurs, le film là sur les trois négresses qui en fait avait un rôle très subalterne à la NASA, qui était, enfin, qui avait un. Elle ne balayait pas, hein, mais elle avait un poste très intermédiaire. Ce film-là est un, comment dire, c'est un peu le nouveau Shoah dans les salles d'école. C'est un film
Ah ouais?
quasiment obligatoire et que les enfants doivent regarder bah, en cette période, quoi, en fin d'année. Ah oui, c'est
Ah, je l'ignorais.
une collègue m'a dit ça, qu'effectivement, ils devaient regarder ça très souvent, les gamins, pour montrer justement la force de la femme noire qui conquiert la lune.
Voilà, ça c'est puisqu'on est en fait dans la thématique en fait de la non seulement de la réécriture de l'histoire mais aussi de la d'un effort pour même, peut qualifier ça même de lavage de cerveau, c'est-à-dire qu'on lave le cerveau des Blancs et ça atteint la France. On pourrait être tenté de se dire, ouais, mais bon, vous savez, c'est l'Amérique, alors oui, vous êtes dans une multinationale américaine, donc vous êtes exposé à ça, mais voilà, au quotidien, finalement, on n'est pas très impacté par ça. Bon, je pense que les semaines récentes ont démontré que c'était pas le cas, au contraire, on est très impacté. La France est probablement un des pays les plus impactés, je pense, ce qui est assez surprenant, parce qu'on pourrait dire, ça devrait être la Grande-Bretagne, etc. La Grande-Bretagne est impactée, mais d'une manière très différente, parce qu'il n'y a pas le même volume de population noire en Grande-Bretagne qu'il y en a en France. Donc déjà ça joue. Et là l'exemple que tu donnes et que je ne connaissais pas démontre que voilà démontre à quel point à quel point l'américanisation rite. Enfin ce que je veux dire c'est à quel point l'éducation nationale qui est un ministère qui est vraiment ancré à gauche en fait ne se casse plus tellement la nénette pour créer sa propre mythologie. Elle prend tel quel ce qui se fait aux États-Unis, quoi. Voilà, on prend, on copie, on colle. Ça, je trouve ça assez intéressant.
Absolument, bah, regarde la région Grand Est, donc la
Oui,
région
oui,
gère les
oui.
lycées en France, a débaptisé un lycée Colbert pour l'appeler Rosa Parks.
Ouais.
Je veux dire, quel est le lien entre la France et Rosa Parks? Il n'y a aucun lien. Et pourtant, bah, toutes ces figures-là de l'Amérique des années 60-70, sont implantés de force dans l'imaginaire mental des petits blancs français, des petits blancs européens,
Oui, de
alors que non,
Lorraine.
enfin, oui, ça n'a absolument rien à voir. Moi, tu vois, si j'avais la possibilité de faire regarder des films, je ferais regarder Birth of a Nation, hein, voilà,
Oui,
qui est
c'est
un
un
très
grand
bon film,
classique, un très grand
un
classique du
grand
cinéma.
classique, qui apprend très bien que bah, les blancs ont très souvent eu conscience que les nègres sont dangereux, hein, et que il faut s'en méfier. On en apprend beaucoup de choses en regardant ce film magnifique d'ailleurs.
C'est un grand chef-d'œuvre du cinéma mondial, hein. Il est reconnu comme tel, même s'il est à la gloire du Ku Klux Klan, mais il est considéré comme tel. C'est un chef-d'œuvre technique, narratif, etc. Donc si ceux qui ne le connaissent pas veulent le voir, ben j'invite à aller regarder Birth of a Nation, en français ça veut dire Naissance d'une nation. Donc voilà, qui est dit. Alors, ce que tu précises, c'est très intéressant aussi, ça, cette histoire de bâtiment Rosa Parks. En fait, ce à quoi on assiste, c'est la dernière phase, la dernière mutation de l'impérialisme américain ou de l'hégémonie américaine. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas l'hégémonie des rednecks du Texas. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est l'hégémonie des grandes mégalopoles américaines cosmopolites et très influencées par les Juifs. Hein. Et
C'est
les
la
nègres aussi, bien sûr, et les nègres. Et c'est ce qu'on
c'est
voit.
la c'est la c'est la, Mac, la McDonaldisation de l'antiracisme,
C'est
c'est-à-dire qu'on
ça,
se
c'est
met
ça,
les mêmes
ouais.
nègres partout. Là, c'était quoi? Comment ça s'appelle? Rosa Parks en Lorraine. Bon,
Ouais, Lorraine, enfin dans
là, il y a
l'Est, ouais.
des oui, donc maintenant, dans n'importe quel patelin, il faudra que il y a tu as ton McDonald's et tu auras
Ouais, ta place
ton
Rosa
hôpital,
Parks ou ton hôpital Rosa Parks, ouais.
oui, ton hôpital George Floyd et
Ouais,
ta
ouais,
place Rosa Parks. Bon, en fait, ils ont tellement peu de trucs à se mettre sous. Ils ont des figures qui s'effritent.
ouais.
Au
Ouais.
plus, au plus, au plus ça s'effrite, au plus ils sont obligés d'en mettre partout et toujours les mêmes. Donc,
Alors,
c'est
il faut
pas.
souligner un truc, hein, MacDav, c'est que la décision qui a été prise de rebaptiser le nom de cet établissement scolaire a été, comment dirais-je, enfin, la décision a été prise par le président de la région, qui est un, je crois qu'il s'appelle Rottner, et c'est un membre des Républicains. Il est officiellement situé à droite, entre guillemets.
Un homme de droite.
Absolument. Oui,
c'est important à souligner,
préciser,
je veux dire.
J'ai oublié de le préciser, mais oui, effectivement, c'est un homme de droite. Alors, c'est marrant parce que on parle de Rosa Parks, mais il n'y a pas qu'un lycée dans l'Est qui s'appelle Rosa Parks. Je suis. Je voyage beaucoup au niveau régional et il y a énormément de bâtiments. Je crois qu'il y a une chaîne de resto qui s'appelle Rosa Parks ou une chaîne de salle de sport.
Ah ouais?
Ouais, mais oui. Et...
McDo, c'est ça?
Ouais, non, mais dans les quartiers, enfin, du moins dans le Grand Est, il y a plein de rues, de bâtiments qui s'appellent Rosa Parks. C'est assez impressionnant. Effectivement, pendant longtemps, c'était les mairies communistes, hein, ou très à gauche. Et maintenant, c'est partout. Alors, pour ceux qui ont suivi un petit peu ce qui se passe aux États-Unis avec le déboulonnement de statues ou de dégradation de celles-ci, c'est pas uniquement les figures de droite qui sont déboulonnées. Hein. Si, au cas où vous n'avez pas compris, c'est uniquement les figures blanches. Jared Taylor a fait une excellente vidéo là-dessus. Quand on en vient à dégrader la statue du général Grant, qui a été président des États-Unis de 69 à 77, si je ne me trompe pas, qui est quelqu'un qui a amené la paix entre l'Union et la Confédération, mais qui a quand même été le général de l'armée du Nord, et en plus de ça, qui a forcé les États du Sud à adopter le 15e amendement. Quand on en vient à dégrader cette statue, faut pas rêver. Ce qui est dégradé, ce qu'on ne veut plus voir, enfin ce que les nègres et les antifas ne veulent plus voir, c'est uniquement la figure d'un homme blanc dominant. C'est tout ce qui les intéresse. Expurger de leur quotidien des figures d'un homme blanc dominant parce qu'ils ne veulent pas voir ces gens-là. Ça leur rappelle leur infériorité en permanence. C'est tout ce qui les intéresse.
Alors on a aussi la statue de Lincoln, Abraham Lincoln, qui a été renversée. Donc Abraham Lincoln, c'est le président qui a aboli l'esclavage après avoir gagné la guerre contre la Confédération du Sud des États-Unis. Lui non plus n'a pas échappé à la vindicte de ces groupes communistes et noirs. La semaine dernière aussi, on en avait parlé, me semble-t-il, mais ça vaut quand même la peine d'y insister, la statue aussi de George Washington a été renversée. Donc, qui est le fondateur des États-Unis. Bon, là, on est quand même à...
George Washington, d'ailleurs, tu as le Washington Post, qui me semble, cette semaine, faisait l'autocritique de George Washington. Hein, donc, le Washington...
Ah.
Post, il fait l'autocritique de George Washington parce qu'il avait 300 esclaves et donc ils se sont mis à citer les 300 esclaves nègres. Ouais. Enfin,
bon, précisons, il les a libérés à sa mort, ceci étant dit. Bon,
oui, mais bon, vu qu'il quand même il en avait quelque part,
oui.
Il est quand même coupable.
C'est un fait, enfin, je donne la parole à Fulbert après, mais c'est oui, un fait que à aucun moment les pères fondateurs des États-Unis, quels qu'ils soient, n'ont cru à l'égalité raciale. À aucun moment. C'était en dehors de leur conception. La question de l'esclavage, c'est complètement différent. Ça, c'est une question qui est... c'était un débat marginal, mais à aucun moment, ils se sont dit les États-Unis, ça va être un État qui va intégrer des Noirs et les populations du monde entier. À aucun moment. Et c'est vrai que... Et là, pour le coup, c'est un petit peu... le fait justement qu'il déboulonne les statues de George Washington, ça oblige un peu les Américains à s'interroger sur leur propre père fondateur et quel était le projet originel des États-Unis. Et là, ils disent « Ah ouais, mais en fait, c'était peut-être conçu pour les Blancs au départ, en fait, ce pays. » Ça aurait peut-être dû rester comme ça, en fait, tu vois. Je trouve qu'il y a un petit effet secondaire intéressant là-dessus. Fulbert, tu voulais prendre la parole, tu voulais dire quelque chose.
Oui, je voulais rajouter à propos de ce que tu disais sur la représentation des personnages statifiés mais originaires de la race blanche, c'est que j'ai vu, c'est tout récent, en Louisiane, il y a une statue de Louis IX, qui est une statue probablement qui a un sens religieux, mais qui est assez importante, et les antifas et les nègres s'en sont pris à la statue, et des locaux, des indigènes blancs, sont intervenus pour la défendre. En Louisiane, donc Louis IX, vous imaginez, c'était au XIIIe siècle, bien avant l'esclavage et tout ce qu'on peut raconter sur le sujet.
Alors Louis IX,
petite précision, la statue en question, on a trouvé des étoiles de David dessus, hein, parce qu'on a reproché à Louis IX, Saint Louis, d'être antisémite.
Alors,
j'avais pas vu ça.
C'est Saint Louis, hein, il faut préciser, c'est Saint Louis, donc roi de France, qui a été en croisade, c'était qui était très connu pour sa piété, c'est pour ça qu'il a été sanctifié d'ailleurs, canonisé. Et on lui a reproché effectivement le procès du Talmud, hein, si ma mémoire est bonne.
Bon, alors, on lui a reproché d'avoir...
brûler le Talmud. Hein.
D'avoir déplu aux Juifs. Hein.
Non, mais je crois que c'est lui qui avait mis en place les bretelles. Hein, la rouelle.
Ah, la rouelle. Oui.
Ça, je mesure.
Ça, je mesure.
Tout à fait, sous les conseils d'un juif qui s'était converti et qui a parlé de son peuple, du coup, au roi, pour lui dire, en gros, moi, je le connais, ce peuple, vaut mieux en faire attention. Vous avez raison.
Oui, il vaut mieux les marquer pour les reconnaître.
Alors donc, la statue de Louis IX, dans cette ville-là, elle est donc ciblée par des vandales. J'ai vu qu'il y avait un prêtre à col romain, d'ailleurs, qui a pris la parole pour essayer d'expliquer. J'ai pas écouté exactement ce qu'il a dit, mais bon, je présume, pour essayer de contextualiser le but, l'origine de la statue, etc. Bon, voilà. Alors, en France, bon, c'est vrai qu'on parle un peu de statue, là, mais bon, puisqu'on y est, j'ai vu que la statue de Jacques Coeur a été vandalisée. Je sais plus dans quelle ville, je crois que c'est au Havre, mais je sais plus.
Oui, j'ai vu ça également.
Jacques Coeur, alors lui, on peut même pas lui reprocher quoi, enfin bon, je sais pas, enfin c'est pareil, hein, c'est un blanc. Voilà, c'est tout.
C'est un blanc qui
est... Il avait des bateaux, donc c'est coupable.
En fait, c'est un blanc qui a fait quelque chose de réel dans l'histoire, qui a pas uniquement fait qu'il s'est levé dans un bus, ou qu'il a refusé de s'asseoir, ou qu'il a refusé de laisser sa place. C'est quelqu'un qui a vraiment fait quelque chose. Et puis, forcément, ça leur déplaît. Il y a aussi une polémique sur Gallieni. Alors moi, Gallieni, pour la plupart des gens, c'est celui qui a mobilisé les taxis de la Marne pour sauver Paris de la quasi-défaite pendant la bataille de Lourdes au tout début de la guerre. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui... C'est une réalité. Hein. Moi je ne porte pas dans mon cœur l'héritage de la colonisation. J'estime que c'est une erreur et qu'on aurait... dû développer l'Europe. Mais malgré tout, quand t'es dominant, quand t'as quelque chose à apporter, tu t'exportes, c'est comme ça, c'est la vie. Quand t'as de l'énergie à revendre, tu vas vers l'extérieur. Ça peut marcher comme ça.
On le remarque avec les nègres d'ailleurs. Hein.
Oui, non mais je veux dire, les blancs étaient dominants et sans l'aide des pays, parce que je veux dire, les nègres, on les laisse quand même venir. Hein. Malgré tout, c'est quand même différent. Oui. Bon. Mais bon, voilà, quand tu es dominant, tu vas vers l'extérieur. Et ces gens ont été vers l'extérieur parce qu'ils étaient dominants. Parce que lorsque l'Europe était à son acmé, à son apogée, elle s'est exportée. C'est une évidence. Et donc Gallieni est accusé, alors ça me fait hurler de rire, d'avoir importé... à Madagascar et au Tonkin, les taurides Gobino. Mais ce qu'on n'a pas compris les pseudo-historiens nègres français, c'est que là-bas, il existait une hiérarchie des castes, hein, sur le modèle un peu indien. Et que les castes pratiquaient déjà l'esclavage. Hein. Et en fait, Gallieni, qui n'était pas un enfant de cœur, hein, qui a fait bosser les nègres et qui, quelque part, a fait en sorte que des routes soient tracées, que des ports soient creusés, que des hôpitaux soient construits, effectivement, il a été violent. Mais, malgré tout, je veux dire, il n'a pas
importé le concept d'inégalité des hommes sur place. C'est absolument faux, ça existait. Il s'est inspiré de la réalité locale, et il en a joué, il a fait ce qu'on appelle classiquement du divisé pour régner, pour coloniser ce pays. Bon, moi je considère que c'est une erreur, mais penser qu'il importe le racisme, c'est juste délirant. Le racisme existait avant, pendant et après, c'est tout. Voilà.
Alors, il y a un truc intéressant dans ce mouvement, parce que... puisque là, on parle de multinationales. C'est la première révolution communiste qui reçoit le soutien, je veux dire, total et massif de toutes les multinationales occidentales. C'est assez étonnant. Hein, on est quand même très loin du coup d'État bolchevique de 1918, hein, quand même, où une poignée de révolutionnaires s'emparent de l'État. Là, c'est les multinationales qui accompagnent donc des groupes de communistes et de noirs pour faire une véritable révolution culturelle, hein, qui nous rappelle un peu ce qui a pu avoir lieu sous Mao en Chine, hein, évidemment. Il y a des nuances, mais il y a quand même un peu de ça. Donc il y a quand même un effort systématique dans cette direction, et il y a des gens très influents qui poussent à la roue, et j'ai observé que sur Twitter, Jean-Michel Apathy, il n'est pas en reste, il est très actif sur le sujet. Et alors, c'est quelqu'un qui a accès aux grands médias, hein. C'est pas quelqu'un de marginal. Et alors lui, il se livre à une surenchère de propositions. Vous pouvez voir en allant sur son compte Twitter. Et là, la dernière proposition qu'il a faite, elle est pas vieille, elle date de ce week-end, c'était d'interdire tous les monuments ou noms de rue ou de place en l'honneur de Napoléon III. Parce qu'il avait supprimé la Seconde République. Alors, comme il n'est pas républicain, il faut supprimer tous ses noms, etc. Alors, on est un petit peu à côté du... On n'est pas dans le domaine, à proprement parler, antiraciste, mais là, on est plutôt dans le domaine antifasciste. Hein. Donc, Jean-Michel Apathy, il faut savoir, c'est un militant socialiste, historiquement. Donc, ce mec-là, il est en train d'essayer d'attiser, comme ça, là, et c'est un jeu très curieux auquel ces gens-là jouent.
Jean-Michel Apathy.
Ouais, mais il y a plus que ça, parce que lui, on voit qu'il y a une espèce de plaisir. Il prend plaisir à provoquer, comme ça. Et là, tu te demandes, mais attendez, ils veulent en venir où? Parce que, je veux dire, si Napoléon III passe à la trappe, il va plus rester grand monde, quand même. Il va plus rester grand monde. Même François Mitterrand. François Mitterrand, décoré de la Francisque, la bibliothèque, il va falloir la rebaptiser, hein, Bibliothèque Nationale.
Oui, mais qui finalement, Mitterrand va trouver qu'il était pour la guerre d'Algérie, il a voté
tout à fait. Il a soutenu la guerre d'Algérie, tout à fait, il a été ministre des colonies, il faut le rappeler. Hein.
Et oui, pourquoi ne pas raser le Paris haussmannien
Alors, il y a une vieille marotte, des anarchistes, qui est de faire sauter le Sacré-Cœur. Hein.
Je crois qu'Apathy, il avait déjà fait un petit coup d'essai auparavant. Il voulait raser le château de Versailles. Parce que vous rendez compte, la royauté.
Non, mais
ces gens
dit...
sont fous. Hein.
Bah, le truc, tu te demandes, tu te dis, le mec, là, il rigole et tout. Il fait de la provocation, mais c'est tellement énorme qu'en fait, il n'est pas sérieux et il sait que personne ne le prendra au sérieux. Ou est-ce que le mec pense vraiment ce qu'il dit? Est-ce qu'il pense vraiment ça? Moi, je me demande.
Moi, je pense que c'est un abruti.
Oui, mais ça, je suis d'accord.
C'est un abruti, c'est pas un vendeur de bagnole lui à la base, enfin, j'ai rien contre les vendeurs de bagnole, mais un vendeur de bagnole qui te donne des leçons de
morale. Je suis pas certain.
D'histoire. Surtout ce qui est ridicule, parce que la République de 48, en fait elle est mortonnée, hein. Je veux dire, ça a duré 4-5 mois,
ouais.
C'était 4-5 mois d'anarchie, t'as une première révolution en février... Et puis, la réaction républicaine, entre guillemets, en juin 48. Enfin, t'as eu deux révolutions.
Mmh.
T'as eu un espoir communiste, hein, enfin Marx en parle beaucoup, qui s'est avéré impraticable.
Mmh.
Alors, il y a une forme d'utopie totalement délirante où on a proposé le droit au travail, où les ouvriers, notamment parisiens, en fait, étaient déjà des fonctionnaires d'État. Hein, ils étaient payés à rien faire. Et puis la réaction s'en est occupée. Officiellement, le coup d'État de Napoléon III, c'est le prétexte utilisé, c'est de lutter contre un autre coup d'État qui était plutôt royaliste, quoi. Donc, bon, je veux dire, c'est grotesque. On peut reprocher beaucoup de choses à Napoléon III. Je veux dire, d'être fossoyeur de la République. Bon,
ouais, elle était déjà boiteuse à l'origine, c'est ce que tu veux dire.
Bah oui, bien sûr, quoi. Je veux dire, la République, c'était une utopie, c'était pas une réalité.
Enfin bon, en tout cas, c'est. Comment dirais-je, l'imagination est au pouvoir et les suggestions se multiplient. J'ai observé aussi que des militants noirs, donc des suprémacistes noirs, réclament, c'est très sérieux, hein, enfin de leur point de vue, ça c'est public quoi, hein, réclament la restitution de Versailles. C'est ce que j'ai vu.
Non mais ils veulent tout, ils veulent Versailles, ouais, l'Église catholique.
Tout à fait, mais c'est important. Alors l'argumentaire.
Leur merde, mais ils veulent pas rentrer chez eux par contre.
Non, ils veulent pas. Bah non, parce qu'ils sont propriétaires. Donc, alors oui. Donc ils ont expliqué que oui, Louis XIV ayant été un roi esclavagiste, ayant supervisé en tant que chef d'État au XVIIe et au XVIIIe siècle la traite négrière. Avec l'aide alors de Colbert, mais fils de Colbert, bon bref, on va pas entrer dans les détails, cette chose-là, Versailles a été construit à la sueur du front des nègres. Donc il faut restituer, il faut rendre.
Ils n'ont visiblement pas compris qu'en fait Versailles a été payé par l'impôt des Français. Ils n'ont pas compris la chose.
Bon. Alors ça paraît délirant, mais. Regardez l'état actuel de la situation, c'est-à-dire que nous avons des gens de droite, entre guillemets, à la tête de grandes régions de France, qui, parce qu'un nègre vocifère sur Twitter, change immédiatement le nom d'un établissement scolaire pour nous mettre du Rosa Parks. On en est là en 2020, moi je dis, attention, 2030, 2040 pourrait nous réserver des surprises assez, assez édifiantes aussi dans le genre. Alors ça peut paraître délirant, mais ça l'est d'ailleurs, c'est complètement délirant. Mais le problème, c'est que le délire pourrait vite devenir notre réalité. Il est déjà en partie d'ailleurs.
Absolument, absolument.
Alors messieurs, je vous propose de passer au sujet suivant, à la rubrique suivante. Autisme radical. Continue sur notre lancée. Alors, ce qui a retenu mon attention cette semaine, chers amis, c'est la longue interview accordée par Philippe de Villiers, le vicomte Philippe de Villiers, au journal Le Point. Alors, vous savez que s'il est soudainement très prolixe, Philippe de Villiers, c'est qu'il sort un livre. Et donc, il entend bien le faire savoir, et il entend bien le vendre. Que dit alors j'ai trouvé cette interview très intéressante et je pense qu'elle vaut le coup d'être commentée ici, donc je la lis, hein, je commence. Donc il y a des questions, donc Le Point pose une question et il répond, donc je vais lire les questions et les réponses de Philippe de Villiers. Alors, les médias sont-ils trop complaisants avec le comité Traoré? Complaisants? Non. Complices. La plupart du temps, on passe sous silence ce que, dans le voisinage des Traoré, tout le monde sait. C'est une famille dont les réseaux font régner la peur. Je ne comprends pas comment le ministre de l'Intérieur Castaner a pu prononcer cette phrase indigne. L'émotion dépasse les règles juridiques. Il est welbeckisé, c'est un dhimmi. Quand il s'agit de manifester sa haine de la France accusée de racisme et de dénoncer une police accusée de violence, on a tous les droits. Mettre bas les masques, se prendre par la main et dépasser la jauge maximale des 5000 personnes pour tout rassemblement public. On envoie les caméras et on se pâme devant le discours racialiste teinté d'islamo-gauchisme. On fait du spectacle à partir de fresques géantes qui nous détournent du légendaire français, fondé sur l'universel. On fait sauter le rempart de la sécession. Il y a en France des centaines d'enclaves étrangères, soulignez-vous dans votre livre. Sommes-nous entrés dans une nouvelle phase plus radicale de ce que Jérôme Fourquet a désigné comme l'archipélisation française? Réponse de Philippe de Villiers. Nous avons franchi un cran et sommes passés du communautarisme au séparatisme, terme qu'utilise le président Macron depuis qu'il a lu mon livre. Nous sommes face à un nouveau virus, un Covid politique. La menace est simple, la fracturation mortifère. ce virus installe chez nous une juxtaposition multiconfessionnelle de ressentiments. À terme, il produira la désagrégation du corps social. La responsabilité de nos élites est accablante. Elles ont importé sur notre sol depuis les années giscardiennes de nouvelles populations issues de nos anciennes colonies. Nous avons renoncé au principe de l'assimilation ou, comme le dit le sociologue Edgar Morin, de la francisation. Les habitants de ces enclaves étrangères qui se multiplient en France n'entendent pas vivre et penser comme des Français et ils accusent la police afin de se soustraire à la loi française. Nous sommes là en présence d'un basculement historique. Avec l'affaire Traoré et les violences incroyables de Dijon, c'est le grand dégrisement. La partition se réalise sous nos yeux et désormais on voit sortir des cages d'escalier et garages à vélo, Kalachnikov et fusils d'assaut. Nous sommes prêts à la phase suivante, l'affrontement prédit par Gérard Collomb, donc l'ancien ministre de l'Intérieur socialiste de Emmanuel Macron. Question, vous exagérez, vous surlignez des situations spectaculaires, exceptionnelles, cantonnées. Globalement, en France, le mouvement d'assimilation progresse. La mixité raciale fait désormais partie de notre ADN. C'est un fait. Et une bonne nouvelle, non ? Réponse, non. Les derniers événements administrent la preuve du contraire. L'assimilation régresse et le flot continue. Soyons clairs, la France a toujours été multiethnique. Je rappelle que la Martinique est devenue française bien avant la Corse. Mais comme, l'écrit l'historien Jacques Bainville, la France, c'est beaucoup mieux qu'une race, c'est une nation. Notre pays a toujours été uniculturel. Nous sommes dépositaires d'une civilisation française qui repose sur la cristallisation dans le temps long de trois éléments, un patrimoine historique commun, un art de vivre qui ne voisine ni avec le halal ni le voile islamique, une langue commune aujourd'hui bousculée. Et voilà que le gouvernement a profité du confinement pour publier un décret afin d'assurer l'enseignement de la langue arabe dans les écoles par des professeurs tunisiens. Il défrancise à tour de bras. Question ? Mais c'est une bonne chose, non ? Sinon, les intégristes musulmans s'en occuperont. Et il faut être fier de ses origines. Ce n'est pas vous, le Vendéen militant, le fondateur du Puy du Fou, parc bâti autour des grands thèmes de l'histoire de France, qui allait dire le contraire. L'arabe n'est pas le patois vendéen ou breton. Alors, le breton n'est pas un patois, c'est une langue. C'est la langue de l'islam. Je pense plutôt qu'il faut pratiquer la règle de saint Augustin arrivant en Italie depuis Hippone, donc l'Afrique du Nord. À Rome, on vit comme les Romains. Pour enrichir une culture vers laquelle on tend le regard, il faut accepter le pied-mère, sans lequel il n'y a pas de greffon. Or, aujourd'hui, nous sommes confrontés à deux urgences. D'une part, il faut réaffirmer l'universalisme contre le communautarisme, et donc avoir le courage de refuser les statistiques ethniques et la discrimination positive, contrairement à ce que souhaite le porte-parole du gouvernement, donc Sibat Ndiaye. Ensuite, il faut retrouver l'idée qu'une nation, c'est un lien amoureux. On est français de filiation ou français d'amour. Je n'ai pas une seule goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines, disait Romain Gary. Nous devons rechercher dans nos enfouissements des affleurements de tendresse française et les offrir aux plus jeunes. Donc de banlieue, hein. Nous devons leur proposer la France non pas comme un tissu de noirceur, mais comme un roman d'amour. En passant par la porte du beau, les inciter à l'aimer non pas parce qu'elle fut grande ou rayonnante, mais tout simplement parce qu'elle est belle. Dernière question. Le combat que vous portez depuis des années, à savoir le souverainisme identitaire, a plutôt le vent en poupe en ce moment. Pourquoi continuez-vous de râler ? Ne vous placez-vous pas, vous-même, porte-voix des Gaulois réfractaires, suivant le titre de votre livre, dans une position de repli ? Réponse : je ne râle pas, je tire les sonnettes depuis mon Aventin, la main en visière sur les périls. Je mets en garde mes contemporains contre le virus séparatiste. Il ne suffit pas de rétablir les frontières et de suspendre les allocations à la misère du monde. Il faut aller plus loin, ne pas se borner à parler des valeurs de la République comme d'un code de la route. Il est urgent de donner envie d'aimer la France à ceux qui ne la connaissent pas. Oser parler de nos légendes, raconter la prosopopée de nos héros, susciter des Français de désir. Nous sommes tous des débiteurs. La France est notre dette morale. Ceux qui ne veulent pas reconnaître la France comme leur mère et qui s'obstinent à la considérer comme une marâtre, on ne pourra pas les garder. L'enjeu est simple. La francisation ou la fin de l'aventure. Je rêve que chacun ait envie d'ajouter son harmonique au poème national. Mais pour aimer, il faut un amant. Un état régalien, une autorité incarnée, nous n'y sommes pas. Alors, messieurs, beaucoup de choses dans ces réponses de Philippe de Villiers. Qui veut à réagir à ces propos.
Alors, ouais, bah écoute, c'est... Comment te dire, par où commencer déjà?
C'est roboratif.
Cet agitateur communiste, hein, disons que si jamais tu cites pas de Villiers, tu dis bon, voilà, voilà un discours, quel en est le, qui est l'auteur? Ouais, tu pourrais très bien trouver ça parmi l'extrême gauche ou les centristes, quoi.
Alors,
finalement, bon, ils veulent le vendre l'assimilation une fois de plus, quoi. Toujours les vieilles recettes. Je sais pas combien de temps, ça doit faire 50 ans maintenant qu'on essaie d'assimiler des gens qui peuvent pas être assimilés de toute façon. Et moi, j'ai envie de dire, c'est une bonne chose. Je répète souvent un credo, c'est je préfère avoir des morsailles plutôt que d'avoir des gens messias. Au moins, il y a une ligne de fracture claire. Enfin, claire, excusez-moi pour le jeu de mots. Mais vaut mieux pas qu'ils soient, entre guillemets, intégrés, ces gens. Voilà. Vaut mieux qu'on puisse voir directement qu'il y a une fracture raciale, hein, pour reprendre la fracture sociale donc, de Devilliers et de Chirac, hein, c'est un peu la même chose. Une fracture raciale, et tant mieux. Et si ça se voit, ça sera plus simple pour faire un truc dont Devilliers ne parle pas, puisqu'il n'y croit pas, c'est simplement la remigration. Voilà. Plutôt que d'assimiler comme ça 20 millions d'allogènes, non, un billet d'avion, c'est plus simple.
Oui, le désir Français de
d'amour.
France.
Désir de
oui,
France.
Les Français d'amour, le désir de France, la francité de
Garnaoum. Il faut se franciser.
L'amour de la France. Oui, non, mais c'est quoi la francisation, hein, il cite Naoum, Edgar Naoum, Edgar Morin, dans son intervention. Il cite aussi oui. le juif, donc aussi juif, Romain Gary.
Tout à fait, ouais.
Juif avec des relations passablement incestueuses. Bon, c'est
encore
quelqu'un.
Mythomane.
Mythomane, oui, mythomane aussi, hein, qui a d'ailleurs fini par se suicider. Bon, très bien. Moi je suis pas, bon, je suis pas d'accord avec toi, Pierrot. C'est pas un discours d'extrême gauche.
Non, c'est pas l'extrême gauche.
L'assimilation. Là, c'est ça, c'est propre à la droite française réactionnaire. C'est la pierre philosophale, l'hexagone magique, l'alchimie, transformer le plomb en or, transformer le nègre en français.
Ouais.
C'est la maladie de la droite réactionnaire française. C'est pas extrême gauche. L'extrême gauche, ils disent oui, on va laisser faire ce qu'ils veulent. Eux, non, ils te disent, il faut que...
Surtout pas.
Boubacar... Alors, il faut que Boubacar s'appelle Jean-Pierre. Donc, Jean-Pierre viendra... suivra ces 12 règles que nous avons définies. Et ainsi, il sera français comme toi et moi. D'ailleurs, Jean-Pierre, qui est... Et son père, Jean-Paul... est plus français que toi qui as un grand-père corse, donc puisque lui il est antillais, hein, il est français avant toi.
Bah, en fait, permets-moi de t'interrompre, tu m'en voudras pas, reprends après bien sûr, mais sur ce point très précis, c'est quand même très très révélateur. On en rigole souvent dans l'émission, on l'a souvent cité, je veux dire que c'est un réflexe de l'argumentation de la droite réactionnaire de citer la Martinique comme preuve que la France n'est pas raciste, parce que vous savez que une des principales missions que se fixe la droite réactionnaire est de démontrer à la gauche et aux allogènes qu'elle n'est pas raciste, hein. Et donc ils disent mais non, la Martinique à laquelle nous tenons tant était française avant la Corse et avant la Savoie. Le Rassemblement National et Marine Le Pen adorent citer cet exemple. Donc c'est quelque chose de très ancré. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour Philippe de Villiers, la Martinique, il faut savoir ce que c'est la Martinique sur le terrain, hein. La Martinique, c'est la France.
Et les Martiniquais, c'est les Français.
Tout à fait. Et par extension, intellectuellement, la France doit prendre le chemin de la Martinique. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en Martinique doit se dérouler sur le territoire métropolitain. D'accord ? Et Philippe de Villiers nous le dit très clairement, quoi. Dans son esprit, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Écoutez, s'il y a bien quelque chose qui est démontré par l'exemple martiniquais, c'est que précisément, l'assimilation, ça ne fonctionne pas. Tous ces nègres des Antilles sont officiellement catholiques, hein. Ils sont tous chrétiens, catholiques. Ils parlent tous français, ils ont tous des noms français. Aucun problème. Bon, vous avez des émeutes raciales très récurrentes. Je ne parle pas du coût financier que ça représente pour le contribuable français, c'est-à-dire pour les travailleurs français en termes de transfert, c'est absolument énorme. Et comment dirais-je, il n'y a pas de solution à l'horizon. C'est-à-dire que ça a vocation à durer encore des siècles et des siècles et des siècles de raquettes fiscales, cette affaire, avec des gens qui vous haïssent. D'accord ? Ils nous le disent tout le temps. D'ailleurs, dans le mouvement, vous savez, de destruction des statuts, etc., ceux qui jouent un rôle particulièrement moteur au plan médiatique et associatif, ce sont des gens qui viennent soit de Guadeloupe, soit de Martinique, soit de Guyane, et qui vous mettent l'histoire de l'esclavage sous le nez. D'accord ? Donc, je veux dire, c'est quand même fort, quoi. On a ce Philippe de Villiers qui vit en Vendée, qui est quelqu'un qui vient quand même de l'aristocratie, excusez-moi. C'est quelqu'un qui est né avec une cuillère dans la bouche, une cuillère en or dans la bouche. Je veux dire,
que tu étais là. Hein.
Ben voilà. Non, mais il ne vit pas ce qu'il dit. Il dit oui, il faut assimiler. Assimiler, ça veut dire vivre avec des nègres et former un nous avec des nègres, des arabes, etc. Chose qu'il ne fait pas lui personnellement. Il ne vit pas entouré de populations venues d'un peu partout. Non, c'est pas vrai. Et je vous rappelle, et j'insiste sur ce point, que c'est lui qui s'était livré à ce petit numéro avec, la Jeanne d'Arc mulâtre que les médias nous avaient vendu, se portant à son secours et lui offrant un ticket gratuit pour aller faire la pub de son parc d'attractions en disant qu'elle avait été insultée je ne sais quoi. Enfin, je veux dire, on a un problème avec cette droite catholique négrophile, quoi. On a un vrai problème avec ces gens. Parce que là,
et si bourgeoise. Vous voulez... Moi, je pense que c'est la bourgeoisie le mal principal. Hein. Parce qu'en fait, ce type, effectivement, comme tu l'as dit, Gandalf, il ne veut pas vivre avec les nègres. Il est content d'exhiber les Jeanne d'Arc, d'Arc, D-A-R-K, de temps en temps, pour faire son petit malin numéro antiraciste. Mais ce n'est pas quelqu'un qui pourra assumer le racisme à cause de sa bourgeoisie. C'est quelqu'un qui veut être un petit rebelle, tu vois. Donc, il sait que maintenant, il n'aura plus jamais l'envergure nationale à laquelle il prétendait auparavant. Que c'était son credo auparavant, mais il veut quand même exister, exister au point où il se ferait rejeter finalement par tous les milieux bourgeois, non, faut être rebelle mais pas trop non plus, et autant certains arrivent à supporter le poids de l'antisémitisme entre guillemets sur eux, mais le poids du racisme, là c'est quelque chose que peu de gens ont le courage de faire parce que ça fait très prolo en fait, ça lui collerait pas à la peau à devenir, vous vous rendez compte, ah t'es bas du front, t'es raciste. Malheureusement, il va falloir y passer hein, parce que c'est quoi notre ambition? Est-ce que c'est absolument vouloir paraître bien et beau sur tous les fronts et puis se laisser envahir et crever? Ou juste assumer la vérité et finalement oui, bah faut être raciste, oui tout à fait.
Dans ses réponses, et c'est très intéressant de disséquer ce cas précis parce que, c'est une argumentation, une rhétorique qu'on retrouve, dans des tas de cercles dits de droite ou même parfois nationalistes, c'est parce que bon, les mots ne veulent plus trop dire grand-chose. Il y a une confusion qui règne. Donc, disséquer l'argumentaire de Philippe Villiers est très intéressant, très didactique. Quand vous lisez ce qu'il dit, ce que tu avais dit un petit peu, si on ne connaît pas le nom de la personne qui s'exprime, on pourrait croire que c'est quelqu'un d'extrême gauche. Alors, je suis d'accord avec Derek, extrême gauche non, mais ça pourrait totalement être un argumentaire d'un notable socialiste. Un socialiste pourrait très bien s'exprimer comme ça en disant la France assimile, c'est un pays. Il le dit, la France a toujours été un pays multiethnique et monoculturel. Ah, ça, c'est archi
faux. Hein, ouais.
C'est totalement faux. C'est totalement
il le
faux.
Sait très bien en plus. Hein. Surtout lui qui est monarchiste. Il est quand même au courant de la question. Hein.
Non, mais je veux dire, c'est fort. C'est-à-dire que les types, je veux dire, sombrent dans les travers de la pire des gauches, c'est-à-dire de la réécriture de l'histoire en dépit des faits les plus évidents. La France n'a jamais été multiethnique, parce que lui, ce qu'il sous-entend, c'est multiracial. Il ne veut pas dire multiracial, donc il dit multiethnique. Donc, dans le sens traditionnel du terme, de l'expression multiethnique, par exemple, comme la Yougoslavie était multiethnique, oui, la France a été multiethnique, si vous voulez. Vous avez des Alsaciens, vous avez des Basques, vous avez des Normands. Bon, oui, si on veut, on peut dire qu'elle a été multiethnique. Lui, il dit qu'elle n'a jamais été multiethnique, elle a toujours été multiethnique et multiraciale, mais elle a toujours été uniculturelle ou monoculturelle. C'est faux. la France a toujours été monoraciale, et pluriculturelle. C'est un fait. Il y avait beaucoup de Français qui parlaient pas le français, qui parlaient la langue de leur région. Bon, le basque, je veux dire, bon, déjà les différences entre le français du nord, le français du sud, les langues d'oc, langues d'oil, bon, l'alsacien, on pourrait y passer comme ça beaucoup de temps. Donc elle a toujours été, j'allais dire, diverse culturellement, mais uniraciale. Et là, on voit qu'on a un effort de réécriture. Pour justement, qu'est-ce qu'il essaye de faire de bien? Il essaye de nous faire croire que la France multiraciale, elle est possible. Mais à une condition, c'est que tout le monde parle français et un prénom français. Ça, cette obsession-là, constructiviste, néoplatonicienne, est un véritable cancer. C'est un véritable cancer. Ce sont des gens qui, en fait, sont des personnes qui, en réalité, sont très proches des idées de la gauche. En fait, ils partagent le même constructivisme qu'une certaine gauche. Et moi, je ne vois pas de différence entre ce qu'il nous dit en agitant sa croix et ce que pourrait nous dire Julien Drey, ce que pourrait nous dire tel ou tel cacique du Parti Socialiste. Quoi. Je ne vois aucune différence, ou même des gens de La République En Marche, hein, je veux dire.
J'aime pas ça, c'est que son truc là, de la République, enfin, pas la République, mais de la France pluriethnique et monoculturelle. C'est du jacobinisme.
Tout à fait.
Du jacobinisme avec la croix. C'est un truc absolument délirant. C'est... Bon.
Oui, c'est du jacobinisme couronné, quoi.
Bah oui, oui, c'est la singerie, quoi. C'est la singerie. Donc et puis ça n'a vraiment aucun sens, pour le coup. Mais tout ça, pourquoi? Pour nous faire passer du métèque en contrebande. Tu vois, la paix du Christ, à la fin. Donc, est-ce que c'est cette recherche interminable de la paix à tout prix qui fait que tu fais passer du nègre en contrebande pour ne pas qu'il y ait un retour à la normale par effectivement quelque chose de passablement violent.
Bah moi ce que je pense simplement que ces gens adhèrent à l'idée antiraciste. Philippe de Villiers est antiraciste. Il ne croit pas que les races existent. Il ne croit pas qu'il y ait des différences entre les QI. En tout cas, dans toutes ses prises de parole publiques, il affecte de ne pas le croire. Et en fait, il cherche à chaque fois, si vous voulez, des biais pour ne pas arriver sur la question raciale, qui est l'éléphant rose au milieu du magasin de porcelaine. On ne voit, en fait, c'est le sujet dont personne ne veut parler, pour ainsi dire. La gauche racialiste en parle de plus en plus sous la pression, en fait, démographique et migratoire. Mais De Villiers, vous savez, il veut pas qu'on en parle. Et il veut constamment, il cherche constamment à faire dévier le débat sur des questions morales, des questions culturelles, strictement découplées de la réalité, notamment de la réalité raciale. D'accord ? Donc on va parler de tout ce qui est autour de la question raciale, mais on va parler du nœud gordien qu'il faut absolument défaire, quoi. C'est quand même fou, quoi.
Moi, j'ai remarqué, là, j'ai étudié un petit peu ces passages là, sur les plateaux télé, parce que là, on voit beaucoup en ce moment. Il est très fier d'avoir l'oreille du président Macron.
Oui, hein, c'est quelqu'un qui est vaniteux aussi.
Il aime à se mettre en scène.
Oui.
Et là, j'ai dit à Brigitte, un truc comme ça, tu vois, mais vraiment. Et à parler comme ça, hein, sur les plateaux télé, à se faire mousser, à dire oui, mais moi il m'écoute, vous voyez, moi il m'écoute. Donc écoutez-moi, je suis important. Ce type-là n'a pas, depuis les élections européennes de 99.
Oui, alors il y a un truc dans sa posture.
Il n'y a pas grand-chose. Hein,
sa ligne politique rien, officielle, hein. Au-delà du côté monarchiste, donc il. D'ailleurs, il n'en parle pas beaucoup, énormément. Mais c'est officiellement une sorte de conservateur, quoi. Les gens, ils veulent conserver, ils veulent un statu quo. Et ça, je suis désolé, je reviens beaucoup là-dessus, mais pour moi, c'est vraiment le cœur du problème, c'est la bourgeoisie, quoi. Je ne parle pas du coup des gens qui sont des bourgeois, je parle d'un esprit bourgeois. Ces gens, ils veulent un statu quo parce qu'ils ont une assise, voilà, sur le monde actuel. Ils ont leur petit groupie, ils ont une influence locale, même nationale, on peut le dire un peu. et il ne faut pas que ça bouge. C'est surtout ça le moteur de leur vie. Donc faire la révolution avec des gens qui ne veulent pas bouger, c'est antinomique.
Non, en plus, je veux dire, comment dire, ce qui a pu être une opposition n'en est plus une, parce que bon, Philippe de Villiers se revendique en fait de la tradition, on va dire, monarchiste et catholique. C'est à peu près de cette tradition-là, égoliste, je précise, égoliste, puisque son père était gaulliste. Donc, il n'est pas maurassien jusqu'au bout, si vous voulez. Il a cette formation-là, il vient de ces milieux-là, il est aristocrate, mais bon, il a quand même, pendant toute sa carrière, joué le jeu du régime, je veux dire. Moi, je le vois à chaque fois faire des sorties sur nos élites depuis les années Giscard, etc. T'as l'impression d'entendre, tu vois, une espèce d'opposant ayant pris le maquis, pratiquement. Oui, mais il a été ministre, cet homme-là. Excusez-moi, il a participé à la gouvernance qu'il dénonce. On n'entend jamais, ou très rarement, ce type faire son autocritique. Alors le mec, il dit, voilà, ça fait 40 ans, 50 ans, les politiciens... caste à laquelle vous appartenez. Il a même été ministre dans un gouvernement chiracien sous Mitterrand. Donc c'est pas quelqu'un qui se sentait, tenu par des conditions telles que, être dans un gouvernement sous la présidence d'un socialiste lui paraissait impossible, quoi. Non, il a mangé du gâteau. Il a mangé du gâteau. Alors, moi, ça me dérange un peu, si vous voulez, de voir des gens qui, après leur retraite, se mettent à parler comme des rebelles. Voilà. Et ils parlent de Gaulois réfractaires. Mais attendez, quand l'expression d'Emmanuel Macron visait en réalité les gilets jaunes en partie, mais pas que, parce que l'expression il a utilisé avant le mouvement des gilets jaunes, mais on va dire ça caractérise en fait le prolétariat français qui a un peu du mal blanc, qui a un peu de mal à joindre le debout. Et moi, de voir De Villiers se décrire comme un Gaulois réfractaire, moi ça me fait marrer. Mais c'est un aristocrate, cet homme. C'est un aristocrate.
Oui, puis
je ne reproche pas à quelqu'un d'être né aristocrate, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire, c'est un aristocrate qui a fait l'ENA, qui a été membre de gouvernement dans ce régime, qui a fait carrière, qui a une activité économique qui ne subit pas d'ostracisation manifeste de la part, du système. La preuve, il a sollicité la présidence de la République avec succès pour réouvrir son parc. C'est quelqu'un qui se compare littéralement, qui se veut le porte-parole quasiment des gilets jaunes. Attendez, non, là,
Non, mais en plus, c'est un mythomane. Il dit qu'on l'arrête pour lui dire il nous faut la France. C'est gens qui veulent nous séparer de la France, etc. Bon, c'est faux. Les gens qui doivent l'arrêter, ils disent, bon, on a plein le cul des bougnoules, hein, voilà, c'est tout, hein. Il nous vend son idée de France, de paradis multiracial, d'alchimie qui transforme les nègres en français. C'est des produits frelatés de contrebande.
C'était un point sur lequel je vais revenir. Justement, c'était cette espèce de néo. Oui, parce que ça a l'air d'être un néo-platonicien, pour ainsi dire. C'est-à-dire qu'en fait, sa conception. Une conception constructiviste, exactement comme la conception de la nation de la gauche. C'est-à-dire, c'est une construction. Voilà, c'est une construction de l'esprit, point barre. Donc, on peut construire une nation avec n'importe quoi. Et c'est ce qu'il nous dit. Voilà. Alors, lui, il pose quelques petites restrictions. Il dit, voilà, un peu plus de croix, un peu plus de référence à l'histoire de France. Mais ça, c'est des restrictions purement esthétiques. En pratique, vous vivez dans une France multiraciale. Voilà, il vous demande d'avaler ça, mais voilà, moyennant telle ou telle petite évolution de pure forme, quoi.
Et c'est Haïti plus Jésus plus un peu de pinard, quoi. Voilà.
C'est ça, voilà. Bon, et pour ça, sa définition, moi, ça me fait, moi, je vois ça, la définition qu'il a de d'une nation, la nation française, mais d'une nation est assez effrayante. Il dit, un art de vivre. C'est quoi ça? C'est quoi un art de vivre? Un art de vivre.
L'art de vivre, c'est un nègre qui s'appelle Jean-Pierre qui boit du saucisson.
Non mais vous voyez, ce sont des notions abstraites. D'ailleurs, sa conception de la nationalité est une conception qui est purement morale et religieuse, quasiment, qui n'a aucune espèce d'ancrage dans la réalité biologique. Hein. Et donc, ils utilisent des expressions comme ça qui sont des abstractions. Voilà, être français, c'est un art de vivre. Mais lequel? Je veux dire, vous croyez que tous les Français vivent comme vit Philippe de Villiers? Moi, j'en suis pas du tout convaincu, vous voyez. Ne serait-ce parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Donc, tout ça sont des expressions très floues qui ajoutent à la confusion. Et ça, je trouve ça extrêmement gênant. Et vous avez qu'à remarquer qu'il ne veut pas qu'on parle de race, et il fait dévier le débat sur la question de l'islam. Ça, c'est un truc qui est aussi très récurrent. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, la presse réactionnaire s'en donne un cœur joie. Hein. Je veux dire, Valeurs Actuelles, etc. Sur l'islam, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Ça ne me dérange pas, bien au contraire. Mais on sent que c'est un moyen de contourner l'obstacle et de détourner notre attention. C'est-à-dire qu'on a sous les yeux, de fait, en formation, une guerre raciale. C'est ce qui est en train de se former sous nos yeux. D'accord ? Donc, les nègres nous le disent, ils nous le disent tous. Vous voyez, vous allez aux États-Unis, ils le disent de la même façon. Partout, ils sont très explicites là-dessus. C'est une confrontation raciale. Et on a cette droite réactionnaire qui arrive, qui nous sort quelques mythes contre-révolutionnaires, une croix, bientôt Bergoglio aussi, pourquoi pas, en nous disant « Ah oui, non, attention, faut surtout pas parler de race, ça fâche. Voilà, soyons patriotes, vive la France et ça ira très bien. » Oui, mais sauf qu'au quotidien,
oui,
votre rue est quand même envahie de nègres et d'arabes, c'est quand même problématique. Racistes. Voilà, donc, non.
Leur truc de souverainisme, en plus, c'est en opposition aux États-Unis. C'est-à-dire que nous, les Français, nous ne sommes pas racistes, contrairement aux États-Unis.
Ah oui, ça revient aussi, ça. Oh là là.
Ça, c'est absolument ignoble. C'est-à-dire que quand ils sont là à accabler le flic là, qui a
arrêté... Oui, d'ailleurs, je le cite, je te rends la parole, je cite que...
Il le condamne, quoi. Ouais.
Dans cette interview, De Villiers fait cette comparaison et dit « Oui, il ne faut pas comparer la... » Il ne faut pas comparer l'affaire Adama Traoré et l'affaire George Floyd, dit-il, parce que, dans le cas de l'affaire Floyd, c'est un crime raciste. C'est ce qu'il dit. Alors que ce n'est pas vrai.
Est un juge américain.
Alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut insister, il faut marteler sur ce point. Ce n'est pas un crime raciste. Ça aurait pu l'être. Mais pour que ça le soit, il aurait fallu des éléments qui permettent de qualifier... l'acte de crime raciste. Or, comme je l'ai dit, je le répète, je ne me lasserai pas de le répéter, à aucun moment il y a un propos raciste, une insulte raciste, ou des considérations qu'il aurait eues en petit comité d'ordre raciste, ça n'existe pas. Ce type n'est pas raciste. Voilà. C'est un flic violent, il a un passif derrière lui, c'est un flic assez violent, assez... Il avait l'air d'être de très vite monter dans les tours, comme on dit, et il a peut-être fait une mauvaise manipulation, mais ça c'est d'ordre purement technique. Mais à aucun moment ce n'est un meurtre, parce que pour avoir meurtre, il faut avoir envie de donner la mort, ce qui n'était pas le cas ici.
C'était ni un meurtre ni raciste.
C'était ni un meurtre ni raciste, et De Villiers reprend ça à son compte. Mais pour mieux s'en distancer, ah oui, l'Amérique, c'est raciste, etc. Mais la France n'est surtout pas... Vous voyez, c'est essayer, vous validez toutes les catégories morales de la gauche anti-blanche, juste pour dire, attendez, ah oui, chat perché, pas nous. Non, on va gagner là-dessus. Ça va pas apaiser les nègres, ça va pas apaiser la gauche, ça va pas apaiser les musulmans, je vous assure que non. Ils vont dire, ah regardez, ils essayent de biaiser, ils vous prennent pour quelqu'un qui est faible, qui cherche à biaiser pour s'en sortir par une pirouette rhétorique. Ça ne fonctionnera pas.
Mais c'est la magie du verbe, moi c'est surtout ça que je vois. Hein. Ce type, il pense que, en répétant les choses... la réalité va changer. Mais non. Dire voilà, le communautarisme existe, c'est un fait. C'est normal, on a des communautés. Dont acte. Voilà, c'est tout. Donc soit on prend conscience de la réalité et on se communautarise, soit on est noyé par les masses. Mais je pense, si tu veux, que c'est un peu le chant du cygne. Hein. Moi, je...
Alors de qui
quand il dit ça, quand il répète... la République, c'est l'assimilation. Il constate bien que c'est pas le cas. C'est un romancier, ce type-là, tu vois.
Oui.
C'est quoi? C'est un romancier. C'est quelqu'un qui est inscrit dans le mythe du résistentialisme chouan. Alors moi, j'ai rien contre les contre les Vendéens, mais c'est du romantisme tout ça.
Bah d'ailleurs c'est ce qu'il dit, hein, il, dit il parle de roman national hein, dans l'interview d'ailleurs.
Bah ouais, tu vois, je veux dire, il parle de Romain Gary déjà.
Ouais. Pourquoi je me...
Tout ça c'est de la littérature. Ça.
Ouais.
Pour quelqu'un, pour un petit blanc...
C'est de la littérature dans laquelle on finit trucidé. Hein.
Oui, c'est ça. Pour un petit blanc qui essaie de survivre, ça passe à des kilomètres au-dessus de sa tête, si tu veux. Je pense que ce type n'a jamais été confronté à un métro aux heures de pointe, quoi. En sortant de Gare de l'Est. C'est pas ce que c'est.
C'est ce que dit Pierrot. Hein. C'est la question de l'embourgeoisement et de cette droite bourgeoise qui paralyse, en fait, hein, le progrès, en fait, pour essayer de se survivre à elle-même.
Il ne faut pas oublier que ce type-là a une grosse histoire de mœurs au cul.
Alors, pas lui.
C'est ses fils, mais c'est quand même. Ouais. En tant que père, quand tu es de droite, quand tu incarnes un mouvement de droite, tu dois être un père un peu exemplaire. La figure paternelle est importante. Quand tu as un fils qui en encule un autre, excuse-moi, mais ça l'a fait mal dans le milieu. Hein. Et je pense qu'il sait très bien que cette histoire pourrait ressortir à tout moment. Hein.
Ce qu'on essaye de dire ici, c'est que s'enfermer dans le déni des réalités n'aidera pas. Ça n'aidera pas. Et qu'il faut partir des réalités. Donc la réalité sur le terrain en France, il n'y a pas qu'en France d'ailleurs, c'est que, comme tu l'as très bien dit, la société se, entre guillemets, communautarise. C'est-à-dire qu'en fait, les groupes ethniques, raciaux, confessionnels s'organisent en communauté parce qu'ils sont de plus en plus nombreux et que de toute façon, ils ne veulent pas se mélanger avec les Blancs d'eux-mêmes, ils se séparent d'eux-mêmes. Cette espèce d'obsession de vouloir à toute force mélanger les gens, qui, jusqu'à une date pas très récente, était quand même cantonnée au sein de la gauche socialiste, je suis frappé de voir que maintenant, je veux dire, l'appel pratiquement au métissage de Philippe de Villiers s'établit à droite. Et vous avez vu, avec la poussée donc, de la gauche racialiste, ce qui est appelé aussi mouvement décolonial, enfin des termes complètement débiles, puisque on a une colonisation halogène, donc je vois pas en quoi ils seraient décoloniaux, ces gens. Ce sont des coloniaux, au contraire. Le mouvement colonial, le mouvement des halogènes, halogénistes, sous la pression de ces gens-là, on voit ce réflexe dans cette droite qui consiste à dire non, les races n'existent pas. Et on va arriver à un stade, d'ailleurs, c'est ce qui se passe avec Onfray, si vous suivez un petit peu, vous savez, il a lancé son petit média, là, et il subit une forme de diabolisation, alors que c'est un homme de gauche, Onfray, hein, parce que, en fait, il se revendique de l'universalisme, exactement comme De Villiers, hein, De Villiers utilise le terme. C'est-à-dire, on nie les différences raciales. On nie aussi les incompatibilités raciales. Et alors, Onfray se fait traiter, en fait, on dit à Onfray, enfin, c'est les reproches qu'on lui adresse, on lui dit, en fait, votre universalisme, c'est votre communautarisme français. Vous voyez ce que je veux dire? Les Noirs leur disent ça. Ben non, mais ça c'est votre communautarisme à vous. Donc, leur universalisme. C'est marrant, quoi.
Là, début des années 90, on avait donc SOS Racisme. Les Noirs n'existaient pas, hein, puisqu'on était tous pareils. Maintenant, on a la droite était là, était en opposition à l'époque contre cet antiracisme-là. Maintenant, on a Philippe de Villiers, représentant de la droite réactionnaire française, qui est pour l'interdiction des statistiques ethniques, quoi, parce que les races n'existent pas, quoi, si tu veux. Donc, le niveau d'autisme là-dedans est quand même assez stratosphérique. Hein.
Ben, je crois que ça...
Sous prétexte, ça pourrait être utilisé pour des trucs de discrimination positive, certes, mais avoir un état réel, hein, enfin des chiffres, c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant que de se masquer, masquer la vue.
De toute façon, moi, je vois pas en quoi connaître des faits serait problématique.
Apparemment, c'est problématique pour tout ce qui est suivi à la France, les faits. Hein. ça aime pas trop, quoi.
Comment dire Oui, bon, c'est la négation du réel dont on a parlé. Mais je suis frappé donc de la similitude des discours entre un Michel Onfray et un Philippe de Villiers. C'est assez frappant. Donc des gens qui nous proposent en fait alors qu'ils ont, je veux dire, vous savez tous ces activistes noirs ou équivalents, ils s'informent avec tout ce qui se passe aux États-Unis, avec les organisations équivalentes aux États-Unis. Il y a déjà tout un argumentaire là-dessus. Je veux dire, sur le color blindness, c'est-à-dire le fait de s'aveugler volontairement sur l'existence des races ou des couleurs de peau, entre guillemets, ils ont déjà tout un argumentaire pour débunker ce truc-là. Et typiquement, on leur dit, non, ouais, mais oui, mais ça c'est le leg impérial, etc. Donc, ça n'ira pas loin. Mais, je veux dire, c'est quand même ahurissant qu'au moment où le fait racial commence enfin à se dégager très clairement, La droite dit ben non, non, faut pas le voir.
C'est la maladie du conservatisme, Jean-Adolphe.
Oui.
C'est la maladie. Ouais, c'est marrant. Ça. D'ailleurs, nous, on savait depuis longtemps, avant peut-être même de commencer l'émission, que la scission était inéluctable et que le mouvement antiracisme allait se diviser entre les universalistes et les différentialistes et que la droite aller prendre le parti de l'universalisme. Mais pas à ce point. Je pensais pas que ça allait être quand même à ce point. Je pense que ces gens auraient quand même essayé d'utiliser au moins la division du camp antiraciste. Mais non, ils prennent parti. C'est quand même assez terrible. Il y a très très peu d'intelligence politique derrière. Et d'ailleurs, c'est pas le cas de la gauche universaliste. Hein. Par exemple, je regarde, on va dire, les tenants historiques de l'antiracisme, les Miller et les BHL et compagnie, ils jouent beaucoup plus finement, parce qu'ils savent ce qui est en train de se passer. Eux le savent très bien, mais ils nient, hein, ils sont dans la négation. Ils n'en font pas des tonnes, ils restent quand même assez subtils. Quand tu vois, un Geoffroy Didier face à un Gérard Miller... Ils sont en train de se demander enfin, lequel est le plus antiraciste des deux. Quoi. Faut voir le truc quand t'as ce saliopin de Gérard Miller qui se fait prendre des leçons d'antiracisme par Geoffroy Didier. Enfin, c'est grotesque. Vraiment, c'est ridicule.
Bah, c'est-à-dire que le projet de la droite actuellement, c'est d'essayer de dépasser par leur gauche les antiracistes.
C'est le pari, par exemple, si on se place du point de vue de la synagogue, c'est le pari de Zemmour contre BHL. Les fans de Zemmour et compagnie, les gens convaincus, par exemple, il y a eu un débat là, cette semaine entre les deux.
Oui.
Les gens convaincus de Zemmour ont été d'accord, mais si on se place d'un point de vue neutre et surtout d'un point de vue d'un Français un peu con, BHL a atomisé Zemmour, hein, parce que, pour le coup, comme tu dis, Magda, il est beaucoup plus fin.
Oui, bonjour à tout le monde, merci de me donner la parole. Alors, sur Philippe de Villiers, je voulais parler un petit peu de sa mauvaise foi, je ne parle pas de sa foi chrétienne, mais qui serait mauvaise, mais il fait partie des gens qui ont eu des contacts en Russie, il a voulu développer le Puy du Fou avec Poutine en Russie, ça n'a pas pu se faire au moment des histoires de Crimée, etc. Mais il a connu aussi l'écrivain célèbre Solzhenitsyn, quand il était toujours en vie, qui est connu pour avoir été prisonnier dans les goulags et pour avoir écrit des livres dans lesquels il raconte son expérience concentrationnaire et sa condamnation de l'URSS. Et De Villiers, comme d'autres... parle de Solzhenitsyn, formidable, quelqu'un qui voyait un rapport entre les guerres de Vendée et l'URSS, etc., le totalitarisme de l'État. Mais Solzhenitsyn a écrit aussi d'autres choses. Il a écrit, par exemple, que ceux qui dirigeaient donc les matons des goulags étaient des juifs, alors que ceux qui étaient prisonniers et qui sont morts souvent, c'était des chrétiens. Mais ça fait partie des choses que Philippe de Villiers fait semblant de ne pas comprendre ou de ne pas savoir lire, hein. Bon, alors que c'est écrit noir sur blanc, hein, c'est dans les livres.
Alors ça, c'est un point très important chez Philippe de Villiers. C'est quelqu'un qui... s'intéresse beaucoup à la religion islamique, qui compte hein, les musulmans, J'ai aucun problème avec ça, moi-même, c'est un passe-temps que j'ai. En revanche, il est totalement incapable de compter les juifs, qui pourtant ne cherchent pas tellement à se cacher, hein, surtout dans la question de l'antiracisme. Hein. Ce sont des gens qui, quand même, depuis bon, maintenant une bonne quarantaine d'années, on vient de parler de BHL d'ailleurs, se sont quand même ingéniés à exciter les étrangers contre les Français de souche. Hein. Ça a été leur fonds de commerce pendant pratiquement un demi-siècle maintenant, si c'est pas plus. Effectivement, sur cette question, je ne vois pas comment ne pas pouvoir en parler. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, tu comprends, quand t'es quelqu'un de premier plan, tu peux pas... Non, mais il y a des façons habiles de parler de ça. Si on ne cherche pas la confrontation, il y a quand même des façons de le souligner. Or, effectivement, Philippe de Villiers, qui est très prolixe hein, sur la question de l'islam, hein, qui a aucun problème à dire le mot islam ou le mot musulman, a beaucoup de problèmes à prononcer le mot juif. C'est assez frappant. Et je suis d'accord avec toi, ça souligne grosso modo sa duplicité, pour ne pas dire plus, quoi, sur ces questions-là. Alors, moi je voulais quand même qu'on s'arrête là-dessus, parce que c'est important, parce que plus fondamentalement, on a là, face à nous, un constructivisme antiraciste de droite, qui essaye un petit peu d'exister face au constructivisme antiraciste de gauche. Bon, si vous arrivez à trouver une nuance réelle entre les deux, je vous tire mon chapeau, moi je n'y arrive pas. Mais il est prévalent, comme je le dis, et je retrouve dans ce que dit Marion Maréchal, dans ses prises de position, ce qu'elle parfois des communiqués aussi, je retrouve les éléments de langage de Philippe de Villiers. Marion Maréchal Le Pen a dit, ex-Le Pen, a dit « La France a toujours été multiethnique, mais elle a été monoculturelle ». Bon, on est revenu là-dessus. Donc c'est faux. Et là, récemment, à la faveur de comment dirais-je, des événements qui se sont passés en France, des violences raciales, notamment instiguées par Assa Traoré, bon, elle fait une vidéo, très bien. Bon, la première moitié est tout à fait acceptable. Bon, c'est des constats d'évidence. Voilà, j'ai pas envie de mettre un genou à terre. J'ai pas à m'excuser d'être française et bon, tout ça, très bien, formidable. Puis ensuite, elle embraye en disant « Moi, j'ai pas une conception racialiste, dans le péril racialiste, j'ai pas une conception racialiste de la nationalité française. » Bref, allez, on en remet encore une couche dans l'antiracisme. Donc, en fait, c'est retour à la case départ. Il faut comprendre un truc, c'est très important. Le processus historique ne revient jamais à la case départ. Donc, la racialisation à laquelle on assiste ne peut pas être contrée. C'est le simple résultat d'une politique migratoire. Ceux qui pensent qu'on va pouvoir remettre le génie dans la bouteille se plantent. Non. C'est impossible. Vous avez 15 millions d'allogènes, ils vont continuer à être de plus en plus nombreux, sauf s'il y a un revirement spectaculaire. Mais bon, si la tendance actuelle reste ce qu'elle est, ils vont être de plus en plus nombreux, de plus en plus agressifs et hostiles, de plus en plus revendicatifs, et la racialisation ne va pas s'arrêter. Et les Blancs n'ont pas à gommer leur identité, non pas à abandonner leur dignité raciale pour accommoder ces populations vociférantes en disant « bon, le deal, c'est que voilà, on oublie qu'on est blanc, mais vous, vous faites semblant d'être français. » Ah non, ça, excusez-moi, ça, c'est pas un deal valable. Et moi, je le récuse totalement. Or, c'est ce qu'on nous propose à droite actuellement.
Puis, nous avons autre chose à foutre que d'être désirés par des nègres qui Tout veulent bien venir nous féconder de leur... fertilité française. Donc, ce n'est pas un projet, ne nous intéresse pas.
Ouais,
c'est pas un projet. Alors, c'est un projet juif, mais ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas. Foutez-nous la paix avec vos nègres, voilà.
Foutez-nous la paix avec vos nègres.
Toute cette droite patriotarde. Qui est là, vous agiter du carteron par-ci, du nègre magique par-là, il faut les envoyer chier. Foutez-nous la paix avec vos nègres.
C'est ça. Ouais. Ça doit devenir un slogan, ça. Foutez-nous la paix avec vos nègres.
Ça doit devenir un slogan.
Ouais, tout à fait. Oui, c'est très important. Moi, je veux vraiment insister là-dessus parce que. Parce que il ne faut pas se tromper. Si les gens s'égarent là-dedans, s'ils continuent à écouter des De Villiers déblatérer sur Clovis et la France fille aînée de l'Église pendant que la basilique Saint-Denis est assiégée par des nègres, si on continue là-dedans, les gens vont rater complètement le fil des événements, ils ne vont pas s'inscrire dans le processus historique. Processus historique actuellement qui est un processus aussi de racialisation des rapports sociaux. Donc, et on ne peut pas faire autrement. Alors, la solution de s'aveugler n'en est pas une. Et c'est très important de ne pas tomber dans ce leurre qui, entre les mains d'un certain nombre de figures, a quand même aussi une tendance à ressembler à une arnaque, hein, faut bien le dire, pour aller au fond des choses, partir de la réalité. Et oui, le communautarisme racial blanc est non seulement légitime, mais il est nécessaire. Il est nécessaire et il se formalise de lui-même. C'est ça que je veux souligner. On est dans un processus organique. C'est organique. C'est pas de l'ordre de la décision. C'est organique. Donc voilà, il faut voir le processus tel qu'il est réellement et s'y adapter. Voilà. Et faire la politique de l'autruche n'est pas une solution. Voilà. Et moi, je voulais vraiment insister en citant ce cas-là, d'autant plus qu'il vend son bouquin. Donc il veut faire parler de lui, il veut qu'on parle de oui, son ouvrage, etc. Bon, bah, parlons-en.
Bah, il veut surtout qu'on parle de lui.
Oui. On a déjà eu l'occasion d'en parler, il faut en parler, mais il faut...
Je pense qu'on en reparlera encore, parce que...
Malheureusement.
On mettra encore le couvert, et les gens oublient à chaque fois, donc une piqûre de rappel sera malheureusement nécessaire un petit peu plus tard.
Tout à fait. Alors messieurs, je vous propose de faire une pause musicale, et on se retrouve tout de suite après. Nous revoici pour la deuxième partie de Démocratie participative, saison numéro 2, épisode 25. Rubrique suivante, une nouvelle rubrique qui s'impose parce que bien, c'est un phénomène qui doit être commenté. La beurette républicaine de la semaine. On en trouve de plus en plus des beurettes médiatiques qui ont des choses à nous dire. Cette semaine, c'est Linda Kebab que vous connaissez sûrement. Elle est porte-parole du syndicat policier Force Ouvrière. Elle est très présente sur les médias français, on la voit régulièrement ici ou là, hein, voilà, sur les plateaux de chaînes d'information en continu. Et Linda Kebab, comme son nom l'indique, en fait, est bien évidemment musulmane, elle est aussi algérienne hein, d'origine. Elle n'est pas turque, mais musulmane. Mais ce n'est pas un sketch, hein, elle s'appelle vraiment Linda Kebab. Alors, elle se fait beaucoup entendre sur les réseaux sociaux, puisqu'elle représente par définition le syndicat de policiers dont j'ai parlé, et avec tout ce qui se passe, eh bien, elle sert un petit peu d'alibi. Et vous aurez remarqué aussi, je pense que nos auditeurs aussi auront remarqué ça, les syndicats de police affectent, par tactique médiatique, de nommer porte-parole de leur syndicat des maghrébins, pour éviter d'être taxé de racisme et de délit au faciès. Donc il y a de plus en plus de maghrébins médiatiques qui représentent la police, dont Linda Kebab. Alors à ce titre-là, du coup, elle est très régulièrement citée par une certaine droite qui retweet, rediffuse, cite à l'envi Linda Kebab, qui représente un petit peu la beurette républicaine autoritaire, hein, celle qui dit, voilà, il faut que les forces de police se défendent, etc., etc. Donc un discours sécuritaire, autoritaire, qui plaît donc à une certaine droite. Mais ce soutien-là, finalement, irrite un petit peu Linda Kebab, parce que, bon, c'est un petit peu dommage quand on est arabe algérienne et musulmane, de devenir, à son corps défendant, l'égérie de la droite réactionnaire, bien sûr. Alors, elle a commis deux tweets ce week-end pour se distancer de cette récupération dont elle ne veut pas. Et c'est le point de départ, ça a été, vous savez, cette manifestation qui a eu lieu non prévue, aux Invalides, hein, où il y a eu une espèce de sauterie sauvage organisée par, je sais pas qui exactement d'ailleurs, mais bon, apparemment des bobos qui voulaient boire, danser, enfin, je ne sais pas exactement, enfin, il y avait une sauterie improvisée. Les forces de l'ordre sont intervenues, il y a eu des éclats de violence, des jets de pierre, etc. Bref. Sur ce donc, alors que ces images des invalides, des troubles invalides circulent, intervient Linda Kebab qui dit la chose suivante, premier tweet. « Zéro réaction d'identitaire ou facho ce matin sur le projet X », le projet X étant la sauterie en question. Vous faites la grasse mat ou vous manipulez les forces de l'ordre que pour dégommer la banlieue et diviser. On n'est pas vos joujoux. Les policiers n'ont pas besoin de soutien hypocrite, mais d'union universelle. Alors, on était sur le thème de l'universalisme, eh bien, Linda Kebab s'y retrouve totalement. Elle commet un second tweet pour préciser sa pensée et inviter aussi nos auditeurs, qui n'ont pas manqué de se reconnaître, eh bien, à prendre toute la mesure de leur désaccord par des actions concrètes. Vous allez voir laquelle. « Je n'ai pas à m'assimiler. Je suis née française. La police ne sert pas vos idées pourries, donc identitaire, RN, droit, ou moins. Mais l'universalisme républicain est sa devise. Donc liberté, égalité, fraternité. Si vous rejetez les lois de mon pays, et là elle met « mon » en lettres capitales, en majuscule. Vous pouvez toujours émigrer. Marre des fachos qui divisent les Français et nourrissent les haines. Voilà. » Porte-parole du syndicat de police Force Ouvrière. Alors, bon, les Blancs, là, les Français de souche, là, les Gaulois, c'est simple, hein. Vous vous barrez du pays de Linda Kebab. Voilà. Si ça, la porte est ouverte, on ne vous retient pas, cassez-vous. Qui a envie de réagir sur cette déclaration d'amour républicain pour les Français de souche?
Mais c'est quoi le prétexte, en fait? J'ai pas
le projet X. Le projet X, c'est une espèce de sauterie improvisée au pied des Invalides qui a tourné à l'émeute. Et elle se plaint parce qu'elle dit, bah ouais, d'habitude, là, tous les fachos, les identitaires, vous nous retweetez, vous nous soutenez, machin, etc., si on est face à des maghrébins ou à des noirs, et là, la sauterie en question étant visiblement bobo, donc blanche, là, vous êtes très discret, vous nous soutenez pas, parce qu'il y a eu des jets de pierre sur les forces de l'ordre, vous êtes où ? Double discours, hypocrite, en fait, vous êtes là pour instrumentaliser les forces de police, pour alimenter le racisme, la discrimination, etc. Et moi, je suis une beurette et je marche pas dans votre truc. Voilà, voilà ce qu'elle dit.
Mais il y a eu combien de temps entre la fameuse émeute et le tweet ?
Quelques heures, on va dire. Le temps
quelques
d'une
heures.
Nuit. Le temps d'une nuit, maximum.
D'accord.
Le temps d'une nuit.
Oui, non, parce que c'est un truc que j'ai souvent observé, c'est que chaque fois que des blancs... Vraiment, c'est... Ce sont des petits blancs parisiens qui sont, je vais pas dire désœuvrés, mais qui ont envie de s'encanailler et qui ont été confinés trop longtemps, en fait. Hein, c'est-à-dire que ce sont des petits blancs, très certainement amateurs de rap, qui idéalisent la banlieue et compagnie. Enfin, c'est vraiment des fins de race. Et elles pensent que les identitaires en tout genre soutiennent ces fins de race. Non, en fait... ces gens ne représentent rien, tout le monde s'en fout, et vu qu'effectivement on les a pas, condamnés, hein, parce que la mode était à la condamnation dans la demi-heure, elle estime que nous sommes là pour diviser, alors que en fait les gens n'ont juste rien à branler, hein, ils n'ont juste rien à secouer. Et c'est très curieux parce que je vois ça très souvent de la part d'Arabes, hein, quand un blanc fait quelque chose. Ils estiment que les médias n'en parlent pas assez, les médias mainstream, j'entends. Hein, c'est des blancs, donc on dit rien, il y a toujours de poids, de mesure, on ne stigmatise que les Arabes et les Noirs, qu'est-ce que c'est que cette république fasciste ? C'est bien, ça fait sortir la bête maghrébine de cette beurette en uniforme. Je trouve que c'est une très bonne chose.
Qui d'autre ? Sur le discours enflammé de Linda Kebab, qui invite les Gaulois à se tirer de son pays.
Je trouve regrettable que Madame Kebab n'aime pas la sauce blanche qui accompagne normalement ce plat traditionnel.
Ouais.
Effectivement.
Oui, moi, j'aurais plutôt dit qu'est-ce qu'elle a ? Elle a ses règles, non ? En fait, c'est juste une... C'est une beurette qui est pété un plomb, quoi. Je pense qu'elle doit se faire quand même assez insulter de beurette de service et compagnie.
Bah, exactement.
Donc, voilà, je veux dire, à un moment donné, tu vois, elle est obligée de donner des gages à son groupe. Hein. C'est la même chose que Camélia Jordana, hein. C'est pareil. Hein. Faut pas oublier que ces gens sont dans une position qui peut paraître un peu ambiguë aux yeux de leur communauté et qu'il est bon de rappeler qu'elles font partie de la dite communauté. C'est pas plus compliqué que ça.
Oui, bah c'est ce qu'elle nous dit en substance, mais là, comment dirais-je, ce qui est très intéressant dans ce truc, c'est que justement, ça montre que l'assimilation, ça marche pas. D'accord ? Et comme nous avons, vous savez, la droite réactionnaire a toute une série de défauts qui se manifestent très régulièrement, dont le soutien de principe à ce qu'ils appellent les forces de l'ordre, vous voyez, sans aucune espèce de distinction. Et c'est très drôle puisque finalement ils soutiennent ces porte-paroles là médiatiques des forces de police et qui leur répondent en leur crachant la gueule en disant non moi j'ai pas envie de m'assimiler, c'est ça, elle parle comme une racisée, c'est très drôle quand même, j'ai pas envie de m'assimiler, je suis française, cassez-vous de mon pays, en parlant très clairement aux blancs, hein. Barrez-vous de mon pays, vous divisez les Français, vous entendez, les blancs divisent les Français, tu sais, je veux dire. Bon, et alors c'est très frappant, puisque, en fait, elle s'intéresse pas à la France. La France réelle, ça intéresse pas. Elle dit bien, la République et sa devise universelle, donc en gros, l'accord de copropriété qui me permet de parasiter tranquillement avec un bullshit job dans un syndicat de police, voilà. C'est exactement ça, ce sont des gens qui sont des parasites, c'est vraiment frappant quand même, comment ils s'expriment toujours de la même façon, on retrouve ça chez les juifs aussi d'ailleurs, C'est vraiment, vraiment, vraiment frappant. Alors, les gens qui croient à l'assimilation, bon, déjà, hein, voilà, qui soutiennent aveuglément les forces de l'ordre en se disant, ouais, la police avec. Non, ils vous le disent, hein, non, on n'est pas avec vous. C'est clair. Ben, vous avez des idées pourries. Bon, t'es un Français en France, tu vois. T'as pas envie de finir en, comment on dirait, submergé par des nègres, des Algériens agressifs, etc. C'est à toi de te barrer. Et c'est une beurette qui te le dit, tu vois, en disant, moi, je représente la France. Enfin, je représente la République.
Oui, c'est ça. Puis elle pense qu'il y a un lien entre ces types-là, et, enfin, des espèces de petits blancs dégénérés et
oui.
acculturés. Très souvent, enfin, potentiellement antifa ou futur antifa, et les identitaires de façon générale. Il n'y a aucun lien. Et c'est évident, hein, il y a une crise de l'autorité grave. Et je suis désolé, mais les syndicats de flics communiquent de façon très mauvaise. Hein. Parce que faire des happenings façon infirmière TikTok, en déposant les menottes à terre, tourner le dos à Castaner...
Ah ouais, c'est ridicule, ça.
Comme ils le font, distribuer des bonbons ou faire des actions en mode « Nous sommes des bisounours hein. ». Ils font ça, hein. ils diffusent la musique des bisounours en mode « Nous sommes des bisounours ». Et en fait...
Ouais, j'avais cru que c'était du second degré, mais en fait, non.
Oui, non, en fait, faut comprendre que pour beaucoup de gens, le second degré n'est pas compréhensible. Et ces gens interprètent la chose de façon symbolique au premier degré. Dire oui, en fait, les flics ne font rien. Et c'est parce que les flics ne font rien que des petits bourgeois qui ont envie de se faire pousser les couilles un samedi soir... parce que les boîtes sont fermées, font ça, c'est juste ça. Et c'est pas propre uniquement, je veux dire, aux petits blancs, tout le monde fait ça, tu vois. Je veux dire, quand une autre beurette infirmière républicaine, très certainement, décide de jeter des pierres sur des flics, c'est juste parce qu'elle sait qu'elle ne risque pas grand-chose. Hein. Elle n'a pas non plus été molestée à mort, comme ça serait passé dans un pays d'Afrique du Nord. Hein. Voilà.
Quelqu'un d'autre veut-il rajouter quelque chose sur toute cette affaire hein? Enfin, sur ce... Non, c'est pas une affaire. Sur cette communication de ce syndicat de police. Je te rejoins, Magda, hein, sur l'histoire du ridicule, les menottes, etc. Oui, là, ça devient... Mais ils avaient fait un mouvement plus dur il y a quelques années. Ça n'avait pas changé grand-chose. Hein. Je veux dire, ils avaient... Ils avaient remué, je me rappelle, il y avait des scènes même de violence, hein, je veux dire, même, il y avait même des flics qui s'étaient couchés devant le véhicule de leur directeur général. Bon, ça n'a rien amené, hein. Ça n'a rien amené du tout. Hein. D'accord.
Ouais, au moins, avec les gendarmes, c'est pas que je porte la gendarmerie particulièrement dans mon cœur. Mais l'aspect militaire empêche quand même de faire ce genre de
oui. De
conneries. Mais bien quand les flics, comment dire, se mettent à faire de la morale, par contre les syndicats de policiers surtout, je veux dire, on est déjà mal barré. Enfin, il faut en faire de plus en plus dans l'antiracisme. C'est sans fin. C'est sans fin. Absolument sans fin. Ces gens ne se rendent pas compte que la crise de l'autorité touche tout le monde. Elle touche le président de la République, elle touche le flic de base, elle touche le prof. C'est quelque chose qui est global, parce que notre société ne veut plus de verticalité. La verticalité, c'est méchant, c'est fasciste. Et quand la verticalité se met en place, les hiérarchies sont au vu de tout le monde, elles sont à nu, et ça déplaît à l'idée qui est dominante. Donc, si tu veux, le fait que tout le monde se mette à dénigrer, enfin pas dénigrer, mais à défier les flics pour des raisons parfois assez ridicules, je veux dire,
oui,
tout le monde le fait. Je veux dire, mais, non, mais le petit bourgeois crie à cab et persuadé d'être un grand résistant. C'est quelque chose de très commun. Par contre, ce qui est, je pense, assez nouveau, est-ce que les Américains appellent l'anarcho-tyrannie et ce qui est en train de se mettre en place en France, c'est que d'un côté, tu as effectivement le citoyen de base qui respecte toutes les lois, qui paye ses impôts, qui est emmerdé, mais pour des raisons de plus en plus futiles, de plus en plus grotesques, pour tout et pour rien, alors que finalement, très souvent, il ne contrevient même pas à la loi. C'est juste quelqu'un qui a envie de vivre de façon libre, sans emmerder personne, lui se fait emmerder. Par contre, l'injure, comme on appelle ça, l'injure aux policiers, comment ça s'appelle, l'outrage,
l'outrage genre, ouais.
Très fréquent. Et effectivement, bah, les flics peuvent devenir violents de cette façon. Mais faut bien vous dire une chose, moins tu as d'autorité, plus tu uses de la violence. Moins la justice fait son boulot en mettant les bougnoules en prison ou en dehors de la Méditerranée, plus ils vont utiliser la violence. Plus ils vont se faire bolosser pour des raisons diverses et variées, plus ils vont se faire caillasser, plus ils vont utiliser la violence pour se soulager d'une autre façon. Tu vois, c'est une évidence, je veux dire. Dans une société comme le Japon, où les flics sont... Enfin, il y a quand même une justice... qui n'est pas vraiment laxiste, tu peux te retrouver en prison pour la détention de couteau, par exemple, hein. Le simple port de couteau peut valoir quelques jours de prison, et ben t'as pas de violence policière, parce que il y a une autorité qui est en place, une hiérarchie, une verticalité, c'est tout. Rien à voir avec les délires d'identitaire qui... en fait, elle est dans un logiciel qui est purement communautaire. Elle porte sa vision de communautariste maghrébine sur l'ensemble de la communauté blanche. Mais elle ne comprend pas qu'il n'est à peu près que nous qui avons cette vision de la société. Elle est totalement à l'ouest, la pauvre.
Dans l'émission, je crois que c'est l'émission précédente, mais de toute façon, on avait abordé ce sujet. Je ne sais plus dans quelle émission, mais c'est une émission récente dans laquelle je disais que la police devenait obsolète. Et que finalement, je me reconnaissais assez, à titre personnel, hein, uniquement moi, hein, dans le, comment dirais-je, le démantèlement de la police. Parce que le démantèlement de la police amènerait la constitution de milices raciales, communautaires, et que, pour le coup, ça permettrait aux Blancs de réellement se défendre, et de défendre leurs intérêts, puisque, aujourd'hui, on le voit, comme tu l'as très bien dit, d'ailleurs, la police Bon, pour résumer, n'intervient plus enfin dans des cas de plus en plus nombreux.
Sauf pour nous faire chier. Comme
ouais, voilà. C'est-à-dire que bon. Et en fait, moi, je pense qu'il y a une mutation profonde qu'on voit aussi aux États-Unis. C'est en fait dans le système dans lequel on est. Parce qu'en gros, bon, que ça plaise ou pas, on est dans un système, on va dire, américano-centré. Même s'il y a des spécificités, on va dire, provinciales au sein de l'Empire, on est quand même dans un système impérial. C'est un fait. Je pense que l'élite en place, on va dire l'oligarchie en place, disons, bascule dans une espèce de néo-féodalisme, dans lequel, en fait, les polices stato-nationales, donc qui doivent quand même rendre des comptes vis-à-vis des populations, qui sont en fait leurs employeurs, techniquement parlant, je pense qu'en fait... Ce type de police ne leur convient plus. Et donc, je suis pas du tout étonné de voir des milliardaires. On cite souvent Soros, mais c'est pas le seul. Il y a beaucoup de fondations qui sont aux mains de très grandes fortunes américaines qui soutiennent justement ces groupes d'activistes. Qu'on voit à l'action en ce moment, vous savez, autour du mouvement Black Lives Matter, mais même lors des élections en général, mais qui sont dans les actions coup de poing, etc., anti-flics, avec tout un discours qui est construit, qui est véhiculé, avec des campagnes, etc. Enfin, c'est quand même très pro, tout ça. Et je crois pas que ces gens qui financent tout ça le fassent parce que soudainement, un matin, ils se sont réveillés en disant « Mon Dieu, quelle horreur, on vit dans un état policier, quoi. » Je pense que ce sont des gens qui ont quand même un certain nombre de projets en tête, et que, en fait, ils ont basculé dans la phase d'application de ce projet. Et dans ce projet, je pense que la police, au sens où on l'entendait traditionnellement, n'a plus vraiment sa place. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de police, il y aura encore quelque chose qui s'appellera une police, mais qui ressemblera davantage à une garde prétorienne qu'à une police. C'est-à-dire que son rôle, ça sera d'ailleurs d'être beaucoup plus militarisé et de défendre un certain nombre d'intérêts bien spécifiques. Mais il y a toute une série d'endroits où on veut très clairement, dont on veut évincer la présence policière. Et ça, c'est voulu à haut niveau. Alors ça tombe bien, puisque les nègres aussi pensent comme ça. Les nègres disent, voilà, nous, on veut pas d'intervenants extérieurs dans nos zones de peuplement. La police, c'est nous qui la faisons. Donc la police tribale, voilà, donc ces règlements de compte, typiquement Assa Traoré. En fait, si vous voulez, en gros, qu'est-ce que fait Assa Traoré? Qu'est-ce que fait le gang Traoré? C'est quoi l'objet de son mécontentement? C'est, en fait, c'est une concurrence pour un même territoire. Et les Traoré disent, c'est un territoire noir, donc vous, à l'occurrence les gendarmes, vous n'avez rien à y foutre. Donc allez gendarmer les blancs si ça vous chante, mais ici, votre autorité est nulle et non avenue. En gros, c'est ça, c'est une question de concurrence. Et en fait, ça, je pense que ça correspond à une philosophie qui se développe au niveau de l'oligarchie, qui dit, voilà, on n'a pas besoin de police nationale comme ça. On a besoin d'une garde prétorienne, on a besoin de forces de choc comme ça, on les a vues, regardez, avec les gilets jaunes. Là, on en a besoin. Là, on a besoin d'une police. Mais c'est pas d'une police au sens où on l'entend traditionnellement, c'est uniquement de police anti-émeute. Donc des gens dont le job, donc la technique consiste à contrôler un attroupement de protestataires. Voilà. Alors là, il nous faut des gens. Et d'ailleurs, Macron a fait des annonces spécifiquement pour les gendarmes mobiles et pour les CRS. Alors là, il y avait eu des augmentations, etc. Voilà. Ce type de police, oui. Eux, c'est des gens, ils n'ont pas de soucis à se faire pour le futur. Militarisation aussi. Donc maintenant, on voit les flics, ils ont des armes automatiques, etc. Donc ça, c'est très... En revanche, quand vous êtes Madame Michu, dans votre petite campagne, vous êtes fait braquer, machin, vous appelez les gendarmes, etc., bah, de moins en moins souvent, ils interviennent. De moins en moins souvent. Et on voit qu'il y a une dynamique pour fermer des brigades, vous savez, dans les zones rurales. Donc on voit bien ce mouvement, de privatisation ou de pré-privatisation. Je crois que c'est un mouvement de fond. Parce qu'en fait, dans l'Occident là, de l'Empire tardif dans lequel on se trouve, l'oligarchie peut se mouvoir, au fond. Elle peut se mouvoir dans cette espèce de néo-féodalisme violent. Etc. Le système, il n'est pas vraiment inquiet, en fait, avec cette balkanisation ethnique. En fait, il n'est pas vraiment bousculé. Il n'est pas vraiment bousculé. Il n'est pas vraiment inquiet avec ça. Il n'a pas envie de gendarmer ces gens-là.
Si, il est quand même très inquiet que la classe moyenne blanche productive qui paye les impôts et qui soutient la dette décide de faire sécession. Ça l'inquiète.
Tout à fait.
T'inquiète pas. Si le mouvement des Gilets jaunes s'il ne s'était pas gauchisé comme il l'a fait, c'est même marxisé, les gendarmes auraient frappé très fort. Je n'ai aucun doute là-dessus.
T'as totalement raison. Et c'est ce que je dis justement. C'est-à-dire qu'on voit bien que, même de la part de la police, mais même dans les médias, parce que les campagnes anti-flics dans les médias, regardez bien, c'est pas des campagnes anti-flics tous azimuts. Lors des Gilets jaunes, la presse n'a pas protesté avec virulence contre la répression. Au contraire. Au contraire. En revanche, dès que ça touche des quartiers de peuplement africain ou maghrébin, immédiatement, violence policière, etc. Puis là, c'est carrément... Enfin, c'est LCI, c'est CNews, et puis y a pas de nuance. LCI, là, ils font... ils publient article après article à la gloire d'Assa Traoré. Donc, attendez...
Chaîne de droite et chaîne néoconservatrice, selon certains partisans de gauche.
Alors, non, mais attendez, il faut en tirer une conclusion. C'est-à-dire, pourquoi les mêmes médias estiment qu'il est totalement inacceptable que la police intervienne dans des endroits qui sont mis en coupe réglée par des gangs de nègres, et que c'est totalement légitime, et même qu'ils y encouragent, de voir la police réprimer un mouvement social légitime, on va dire, lors des deux premiers mois du mouvement des Gilets jaunes, un mouvement protestataire antifiscal. Notez bien la différence. Alors, je sais pas, soit ils sont dogmatiquement contre les violences policières, et à ce moment-là, ils y sont à chaque fois, soit, en fait, ça dépend de qui tape la police. Et en fait, bah, la réponse est évidente, quoi. Très clairement, cette presse, qui est aux mains de milliardaires, et qui est aussi financé par l'État, et qui de toute façon est encadré par des gens d'en haut et pas des gens du bas, ces gens-là, ils ont une certaine conception dont la société doit être gérée, et très clairement, de leur point de vue, les halogènes ne doivent pas être traités de la même façon que les indigènes, c'est-à-dire effectivement les blancs de la classe moyenne. Quoi. Ça c'est très clair, et c'était ce que je voulais dire. Ils sont pas gênés avec le fait qu'il y ait des poches complètement mises en coupe réglée par des gangs. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent totalement. En revanche, je suis d'accord avec toi, tu as totalement raison, ils sont très inquiets de voir les blancs potentiellement se... Je sais pas si je peux me dire se rebeller, mais disons...
Ils ont été très inquiets de voir les blancs monter à Paris chez eux, quoi. C'est-à-dire que dans le... C'est le précaré
oui.
de...
Oui, dans le 16e et tout, oui, effectivement.
Voir. Ouais, pas que ça, il y a partout. Tu as des ministères partout.
Oui, mais il y avait eu un ministère qui a été chargé au Fenwick, c'est vous
ministère qui a été chargé au Fenwick, tout à fait. Donc, il y avait une menace au niveau du pouvoir à ce moment-là. Les nègres, là, c'est la militarisation de ces races de boue contre nous.
Ouais.
C'est une réponse, hein, une réponse
ouais.
À ce qu'ils ont pu avoir. C'est pour ça que les flics, bon, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Les flics sont là, on nous a filé des primes quand on tapait des blancs, et là...
ils nous crachent dessus.
Et là, dès que les nègres, on leur demande leur papier, ça va pas. Ouais.
C'est quand même pas compliqué à comprendre que, je veux dire, moins il y a d'autorité, plus il y a de violence. Et que, l'anarchie qui a lieu en ce moment, avec des flics qui sont caillassés par aussi bien des bougnoules que des petits bourgeois, et de l'autre côté, la matraque lourde et les amendes qui pleuvent pour excès de vitesse et compagnie, En province, ce sont les deux faces d'une même pièce. Il n'y a pas à les opposer, c'est le même processus.
Tout à fait.
Après, malheureusement, dans nos milieux, j'ai l'impression que soit on prend trop parti pour l'un,
c'est binaire.
Pour l'autorité, soit pour l'anarchie. Je pense que c'est, tu vois, il faut articuler les deux. C'est un mouvement dialectique, en fait.
Bah, on est dans
là,
une.
Ça fait que... ouais. Ce truc-là, ça ressemble quand même à. Au combat de la France des métropoles, ouais. Celui de la France périphérique, hein, c'est très guilouis dans la grille. Le pouvoir se protège lui-même à Paris, protège ses nègres contre les sauvages blancs de province.
Ouais, en plus c'est d'un point de vue purement géographique. Ces gens sont assiégés, hein. Enfin, ils sont assiégés dans leur centre-ville. Et il y a, je crois qu'en. Comment dire, à Paris, il y a un flic sur 100, un flic pour 100 habitants. Petite couronne, un pour 200, et grande couronne, un pour 300. Donc ils ont tout intérêt à, amener ces racailles vers l'extérieur, plutôt que celles-ci se déversent vers l'intérieur. Ils n'ont absolument aucun intérêt. Avoir ces hordes de nègres et de bougnoules débarquer à l'intérieur de leur centre-ville. Hein. Alors, de temps en temps, bon, voilà, si on a de temps en temps un ou deux qui bolossent l'un de leurs neveux, bon, voilà, hein, c'est la vie. Par contre, si ça devient massif, effectivement, là, on pourra peut-être sortir la matraque, mais. Ce sera la bonne matraque. Ce sera la matraque qui aura, je pense, tous les droits et qui ne fera pas de quartier. Je pense que là, il n'y aura pas de Black Lives Matter si jamais ça dégénère réellement méchamment. Je pense qu'ils seront tout à fait aptes à sortir les flingues. Mais pas pour nous. Pas pour les gens qui sont en France périphérique.
Il faut... Moi, j'insiste sur ce point parce que ça... L'histoire de la police, là, le fait que certaines parties de la population Elle n'a pas le droit de toucher un cheveu d'une certaine partie de la population. En revanche, elle est très encouragée à le faire sur une autre partie de la population. Tout ça, ça participe du mouvement plus large de prise en main du système de manière, pour le coup, autoritaire par l'oligarchie en place. Hein. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, mais très évidemment, les soubresauts qu'ils qualifient de populistes qui ont eu lieu ces dernières années, qui ont déstabilisé le système, les ont, je pense, beaucoup inquiétés, et ils se sont dit qu'il fallait briser l'élan, en fait, de ce soulèvement populaire et blanc, en réalité, hein, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit aux États-Unis, en Europe, enfin, bon, il faut le casser, ça. Parce que ce mouvement populaire est aussi un mouvement social de contestation, et ils les visent directement dans leurs intérêts. Et créer comme ça une espèce d'insurrection raciale nègre, mais qui pourra demain aussi devenir musulmane, si besoin, sur les arrières, en fait, de la classe moyenne blanche, ne doit pas nous tromper. Alors, c'est pour ça que vous voyez tous ces grands groupes, ces grandes multinationales soutenir ce truc. On n'a jamais vu ça. Je veux dire, écoutez, si c'était une révolution, enfin, si c'était une révolution populaire, etc., vous n'auriez pas les multinationales qui soutiendraient. Bon. Donc, on voit qu'il y a vraiment une dimension, je veux dire, il y a le caractère très, très artificiel, très monté de tout ça. On voit McDonald's, toutes les grandes marques qui sont soutiennent ce mouvement insurrectionnel avec la mise en accusation des blancs en tant que tel. C'est clair que là, ils se sont dit, on va leur créer une insurrection raciale sur leur dos, et ensuite nous, avec notre presse, avec nos médias, avec nos partis au pouvoir, on va prendre le parti de ces auxiliaires nègres, etc., en accusant la classe moyenne blanche de tous les maux. Vous êtes des salauds, vous êtes des... Et grâce à ça, ils peuvent reprendre l'ascendant moral qui légitime ensuite toutes les saloperies qu'ils ont besoin de faire pour tenir en main la classe dangereuse qui est la classe moyenne blanche. C'est clair et précis. C'est très vicieux comme méthodologie, puisqu'en fait, c'est clairement une reprise en main sociale qui vise à contenir hein, les classes populaires blanches, mais en assumant pas un discours de dominant. Vous voyez, ce sont pas des gens qui viennent vers vous en disant on a le capital donc tu fermes ta gueule. Ils utilisent des marionnettes qui parlent comme des oppressés pour accuser en fait les véritables oppressés qu'est la classe moyenne blanche. C'est extrêmement vicieux. C'est très efficace médiatiquement, et c'est pour ça que Assa Traoré, je prends cet exemple parce que c'est celui qu'on connaît le mieux ces derniers temps, je veux dire, elle est accueillie partout. Elle est accueillie partout, sur tous les grands plateaux, etc. Les milliardaires n'ouvrent pas les plateaux de télévision à n'importe qui. Hein, il suffit pas de gueuler. D'accord ? Vous voyez pas de paysans, d'agriculteurs débarquer comme ça sur les plateaux de télé en disant on en a marre, le truc, ou bien telle autre catégorie de. Non, c'est uniquement certaines personnes qui ont le droit d'intervenir. Et voilà, moi je pense que ça c'est le gros truc qu'il faut comprendre dans tout ce qui se passe. Si on ne comprend pas cette dynamique de pouvoir, cette stratégie de l'oligarchie pour renforcer en fait sa mainmise. On comprend rien en fait. Y a bien une instrumentalisation, en gros, du conflit racial, mais contrairement à ce que dit l'extrême gauche, le capital ne s'appuie pas sur le racisme blanc pour rester aux manettes. C'est exactement l'inverse. Il s'appuie sur, comment dirais-je, le racisme des allogènes comme force auxiliaire contre les blancs. Voilà.
Oui, et puis beaucoup sur la culpabilité des blancs. Tout ça est moteur de business.
Bien sûr. Alors, voilà pour la petite Linda Kebab qui croit défendre, je sais pas quoi, l'idéal républicain. Non. Non.
Ouais, alors, ça, je voulais juste revenir sur un truc. On parlait du racisme
des Noirs qui étaient les moteurs du, on va dire, du capital, entre guillemets, faut pas oublier une chose, c'est que les nègres sont d'excellents consommateurs.
Oui.
D'ailleurs, L'Oréal a voulu supprimer les mots blancs de certains de leurs produits. Il faut savoir que aux États-Unis, les nègres épargnent beaucoup moins et consomment beaucoup plus. Je crois que c'est de l'ordre de quelque chose comme entre 20 et 30%. Ils consomment plus de produits d'apparat et de produits de beauté. Hein, faut pas oublier ça. Donc tout ça est un marché pour ces entreprises.
Alors justement, ouais. Puisqu'on va... Oui, Derek.
Non, je voulais préciser que les nègres consomment avec l'argent en général des subsides, les subsides de l'État, hein, donc les subventions, pour consommer effectivement. Donc l'argent que vous donnez à l'État pour qu'il le donne aux nègres est.
Ouais, retombe dans la poche des grands groupes.
Oui, des grands groupes, hein, donc c'est le capitalisme de connivence, clairement. Et c'est pas étonnant qu'il soit pour le fait qu'on continue à filer l'argent aux nègres.
Bien sûr.
L'argent qu'on prend aux blancs pour donner aux nègres, c'est plus profitable pour certains groupes.
Tout à fait. Alors, j'enchaîne sur ce deux poids deux mesures qu'il faut décortiquer pour comprendre son origine et pour comprendre quelle est la stratégie qui se cache derrière. C'est l'histoire de la banderole déployée lors d'un match qui se déroulait en Grande-Bretagne. Alors donc ça, je cite Le Parisien, et donc je lis, hein, c'est pas mes mots, mais vous allez voir que là, il y a un prisme qui s'applique. Alors voici cet article. Une rencontre du championnat de football anglais a été perturbée lundi soir par une banderole d'extrême droite. Si, sur le terrain, Manchester City a expédié les affaires courantes en écrasant Burnley 5-0, en dehors, un avion a survolé le stade en tirant une banderole d'extrême droite avec écrit « White Lives Matter », c'est-à-dire « La vie des Blancs compte » en français. Juste avant le match, les deux équipes, leur encadrement et les arbitres, ont posé un genou à terre en hommage au mouvement antiraciste et de lutte contre les violences policières « Black Lives Matter »,« La vie des Noirs compte ». Il s'agit d'un protocole mis en place avant toutes les rencontres de Premier League depuis sa reprise. Mais quelques minutes après le coup d'envoi, un avion de tourisme a fait plusieurs tours au-dessus du stade en tirant le slogan donc « La vie des Blancs compte » utilisé par l'extrême droite. Cet incident n'a pas été diffusé sur la chaîne Sky Sports qui retransmettait le match, mais a été commenté sur les réseaux sociaux. Le club de Burnley, une ancienne ville minière et industrielle au nord de Manchester, est longtemps bastion électoral de l'extrême droite anglaise, a rapidement réagi dans un communiqué pour, je cite, « condamner fortement la banderole ». Je cite encore « cela ne représente en aucune façon ce pour quoi se bat le Burnley Football Club et nous coopérons avec les autorités pour identifier les responsables et prendre les mesures appropriées. Nous tenons à dire clairement que tous ceux qui sont responsables ne sont pas les bienvenus à Turf Moor, le stade du club. J'ai honte, je suis embarrassé qu'un petit nombre de nos fans ait décidé de faire tourner ça au-dessus du stade, a pour sa part réagi Ben Mee, le capitaine de Burnley, interrogé après la rencontre. Ces gens ont besoin d'entrer dans le 21e siècle et d'être éduqués, comme beaucoup d'entre nous le sommes. Je suis vraiment bouleversé que cela soit arrivé, a continué le défenseur, arrivé au club en 2012. Alors, là c'est un exemple caricatural en fait, hein. Donc en fait, les petits blancs locaux en ont marre de se faire cracher dessus, et en fait, ils font voler cette banderole qui dit tout simplement un truc très, très, très neutre, qui est simplement le décalque pour les blancs du slogan pour les noirs, d'accord ? Bon, White Lives Matter, Black Lives Matter, bon. Et visiblement non, les vies blanches ne comptent pas, et on ne peut même pas le laisser entendre. Et si vous le laissez entendre, vous êtes raciste. Et là vous voyez qu'il y a un glissement. C'est-à-dire qu'en fait, être blanc, c'est être raciste. Hein. C'est ce que ça signifie. Hein. Je veux dire, visiblement, il n'y a pas d'égalité raciale. Ils le disent. Les noirs sont au-dessus des blancs. Voilà. Et j'ai trouvé c'est un aveu sémantique extraordinaire. Mais les réactions de notamment du footballeur, le capitaine, qui est un millionnaire, hein, évidemment, hein, des autorités, etc., contre les petits blancs du coin, qui font un petit canular comme ça, je trouve ça extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire de ce truc-là?
Alors, on a besoin d'être rééduqué, quoi. Ça, c'est. Il faut nous rééduquer. C'est pas comme si on s'était pris des décennies de propagande sur la gueule. Non, non. On se prend de la propagande. Il y en a quelques-uns parmi nous qui résistent, mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas pris assez de propagande dans la gueule. Non, non. Hein, vas-y, continuez, continuez, continuez. Comme ça va marcher. Ça va finir par rentrer. Vous en faites pas. Ça va marcher. Enfoiré.
Ah bah le foot anglais est une des preuves que leur propagande a quand même pas mal tourné. Si vous regardez des extraits de vidéos sur YouTube, par exemple, des matchs des années 90, 80, 2000, ouais, même encore 2010 peut-être, vous aviez beaucoup moins de joueurs, ouais, à la peau noire, mais souvent c'est des mulâtres d'ailleurs, c'est des issus du métissage anglais souvent, enfin, entre des populations qui vivent en Angleterre. Donc ça a déjà fonctionné à mort, leur propagande, hein, beaucoup au Royaume-Uni, mais il y a des gens qui résistent. Et ils ont bien raison, hein, et c'est très débile de la part de ce capitaine d'avoir, voilà, parce que c'est une ville minière, tu l'as dit, Burnley, donc ça veut dire que, enfin, on aimerait bien savoir qui sont les miniers, et les mineurs, pardon, c'est-à-dire qui a travaillé dans les mines pour faire en sorte que la ville existe et se développe. Bah probablement c'est essentiellement des blancs, hein.
Bah,
Ouais,
ouais.
le type d'ailleurs a perdu son boulot, je crois. Hein. Il a perdu son
Ouais, et
boulot,
sa
sa
femme
femme
aussi, Salana
aussi.
aussi, c'est vrai.
C'est bon, ouais, alors pour le coup, le slogan était excellent. C'est pas, on parlait pas de racisme, c'est oui, on affirme quelque chose sur les blancs. C'est
Ouais.
très intéressant. Et il s'est pas laissé démonter. Il avait dit oui, je m'excuse auprès de absolument personne. Voilà, même pas un
Ouais,
peu.
d'accord.
Une sortie très groin pour le coup. Bon, voilà, le type effectivement issu
Bon, l'anglais teigneux de la working class,
probablement
quoi.
ouais, l'anglais teigneux de famille de mineurs très probablement. Donc c'est dur à cuire. Et bon, à voir comment va le type, bon, il risque, j'espère qu'il va arriver à rebondir, et surtout. Mais ouais, le bon, est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'un footballeur fasse donne un discours qui soit autre chose que
Non, je vois ce que tu
superficiel?
veux dire. Alors, en fait, moi,
Je sais pas.
j'ai regardé la réaction de l'entraîneur. Pas de l'entraîneur, il y a eu les deux, hein, mais j'ai eu la réaction du capitaine. Et vraiment, même dans sa posture, j'avais l'impression d'avoir affaire, si vous voulez,
Marionnette.
Non, non, d'une espèce de détenu d'un goulag et qui est en séance d'autocritique. C'est-à-dire, le type est psychologiquement complètement brisé, il est cassé psychologiquement. Il avait la tête baissée d'abord, il avait la tête baissée et il était effondré psychologiquement. Et ça m'a vraiment fait penser aux séances d'autocritique qui existaient dans les démocraties populaires du bloc de l'Est, où on vous casse psychologiquement en disant oui, j'ai commis telle erreur, j'ai commis telle erreur, j'ai fait tel truc, tel truc. Et en fait, les séances d'autocritique avaient pour but, bah, précisément ça, de
De
briser tout.
rééduquer
de
voilà.
rééduquer
D'abord, de briser psychologiquement celui qui est considéré comme un élément potentiellement subversif ou un opposant, de le briser psychologiquement et ensuite de le faire venir à vos positions. Et effectivement, comme vous dites, rééduquer. Et c'est très frappant que le type, alors qu'il a cette posture, c'est assez frappant à voir. Il dit, ah, il faut que les gens soient éduqués comme nous le sommes. Oui, on peut le prendre de différentes façons, cette déclaration, vous voyez. Et pour le coup, ça avait vraiment un caractère très soviétique, hein. Ça avait un caractère vraiment très soviétique. Et on y est. Et on y est. Donc, alors, comme je pense que l'écrasante majorité des supporters de ce club de foot sont tous des blancs, ils ont été probablement surpris d'apprendre par la bouche du capitaine de l'équipe qu'ils aiment beaucoup et celle de leur entraîneur, bah en fait, bah non, leur vie ne compte pas. C'est la vie des nègres qui compte. Donc, il y a probablement très peu de nègres qui viennent payer leur abonnement au stade. Mais c'est les nègres qui passent d'abord. Bon, avec une telle loyauté de la part de ce club de foot vis-à-vis de ceux qui les font vivre, je pense qu'il y aurait un très gros ménage à faire dans la direction de ce club. Je pense que les fans, les supporters qui doivent pas avoir un très grand train de vie et qui consacrent quand même une certaine somme à leur club devraient quand même commencer à régler des comptes là-dedans. Moi, je trouve que c'est la moindre des choses. Si des clubs de noirs, des trucs, ils veulent faire du Black Lives Matter à gogo, c'est leur problème. Mais qu'un club de foot, ce serait vrai en France aussi, hein, qu'un club de foot où l'écrasante majorité des supporters est blanc et que ce sont des blancs qui font vivre ce club, de voir une direction d'un club de foot cracher aussi ouvertement la gueule des blancs, il faut leur dire à un moment donné, il y a un prix à payer pour ça. Alors, on n'est pas des paillassons. Il y a une les noirs peuvent avoir leur dignité raciale s'ils veulent, moi je m'en fous. Mais les blancs ont le droit d'avoir aussi leur dignité raciale. On n'a pas à être des paillassons. Donc à un moment donné, quand les mecs nous crachent ouvertement au visage, on leur répond. Et dans ce cas d'espèce, comme dans d'autres cas d'espèce. Et en fait, là, c'est parce que, en fait, ils craignent, bien sûr, ce capitaine, ils craignent les conséquences vis-à-vis de, éventuellement, je sais pas moi, les autorités du championnat ou machin. Mais ils ne craignent pas assez leur base. Et s'ils craignaient leur base, ils commenceraient par fermer leur grande gueule. Ils commenceraient par fermer leur grande gueule. Mais comme les blancs s'écrasent, voyez, on s'écrase, on reste dans nos petits chaussons, on bronche pas, etc. Les mecs, ils disent, bah, c'est très simple. Là, je prends des coups, là, j'en prends pas. Bon, le calcul est vite fait, quoi. Donc, les juifs, ils hurlent. Les musulmans, ils hurlent. Les nègres, ils hurlent. Les PD hurlent. Par contre, les blancs, ils hurlent pas, et c'est eux qui font fonctionner toute la boutique. Il va peut-être quand même falloir commencer à changer de braquet. Cher MacDev, tu citais le cas de L'Oréal, qui vient d'annoncer supprimer le mot blanc de tous ses produits. Mais attendez, ils font de l'argent avec qui, ces gens? L'Oréal s'est vendu où? Je veux dire... Donc pour plaire à trois connards sur Twitter qui sont en train de criser, et parce qu'il y a deux donneurs d'ordre, je ne sais pas où, aux États-Unis, ces mecs-là, ils crachent à leurs consommateurs blancs aussi ouvertement. Mais attendez, il faut.
Mais là, il y a une différence notable, c'est que les consommateurs de L'Oréal, donc sont forcément des pays développés, parce que c'est des produits qui coûtent généralement assez cher, sont des consommatrices. Donc là, pour le coup, c'est plutôt des gens qui valident la pensée dominante.
Je suis d'accord. Les blanches qui ont recours à du maquillage sont quand même des femmes qui veulent être belles. Bon, est-ce qu'une marque qui leur dit qu'être blanc, c'est porter une tare, est-ce que ça les valorise?
Donc moi, je veux bien. Est-ce que les femmes ont un discours rationnel déjà, hein?
Non, mais bon, je veux dire, à un moment donné, si tu veux, si tu dis que le blanc, la couleur, enfin, bon, bon le blanc. La couleur blanche est dévalorisante, comment tu fais pour démarcher une clientèle blanche? Donc tu vas essayer de les démarcher en leur crachant dessus, ça risque d'être compliqué.
Tu leur vends des produits, les femmes sont facilement manipulables, ce genre de truc, tu leur vends des produits justement pour être plus bronzés, etc. Et puis ça passe pas.
Non, ça d'accord, ça existe, mais...
Non, mais attends. Voilà, la psychologie féminine, je veux dire, très très largement exploité par le marketing, hein. Et qu'est-ce qui fonctionne en ce moment, à mon avis, c'est la culpabilisation.
Oui, mais tu vois, il y a aussi à un moment donné, si tu veux, une espèce de confort psychologique, tu vas pas vers une marque qui essaye de culpabiliser, tu vois ce que je veux dire?
Ouh, et bien écoute, c'est pas forcément de la culpabilisation, mais c'est du signalement de vertu.
Oui.
Il est très important pour une marque de faire de la signalement de vertu, et de faire croire à ses consommatrices qu'en rejoignant cette marque, elles-mêmes seront vertueuses. Elles-mêmes seront de bonnes citoyennes, antiracistes, cosmopolites, écologistes.
Ouais, mais j'entends bien, mais on touche à l'esthétique, si tu veux. C'est-à-dire que là, c'est même pas juste un discours d'un, c'est de dire, voilà, le blanc, le fait d'être blanc, c'est une tare. C'est-à-dire qu'il y a une forme, littéralement, de diabolisation de la couleur blanche. Et pour une personne, d'être blanche. Et là, si tu veux, c'est très différent de dire « Nous, on est une marque inclusive, on aime tout le monde. » Ou de dire « On est une marque inclusive, sauf ces sales blancs qui sont des démons. » Tu vois? Parce que c'est ça le message qu'ils sont en train d'envoyer là. Ils n'ont pas juste dit, si vous voulez, « Oh, le terme le blanchissement, il est problématique, machin. » C'est carrément le mot blanc qu'ils évacuent, d'accord? Bon, c'est... Moi, si vous voulez, sur la période là, actuelle où il y a vraiment beaucoup de tensions, les médias agitent ça, etc. Bon, je veux bien croire, si vous voulez, que les gens ils sont un peu confus, quoi, y compris voilà, les nanas, etc. Bon. Mais ce type de stratégie marketing sur 10, 20, 30 ou 40 ans, je crois pas que ce soit payant avec des populations blanches. Hein. Je veux dire, j'y crois assez peu. Hein.
Ouais. Et moi, ce que j'observe là-dedans, hein, c'est que on dirait la mise en pratique de la vieille technique d'Edouard Bernays. Vous savez, ce type qui conseillait dans la publicité pêle-mêle aux femmes de fumer parce que ça les rendait plus indépendantes. Ici, bah, il retire le blanc de la marque L'Oréal. Comme tu l'as justement fait remarquer, ça donne une certaine culpabilisation. Et donc, les acheteurs vont se barrer. Les acheteuses, plutôt, principalement. Elles vont se barrer. Donc, je pense, quelque part, qu'ils ont mal interprété la technique de Bernays, qu'ils l'ont mal appliquée et qu'ils ont fait une grosse erreur.
Bah là, ils vont quand même assez loin, quand même, dans la différence entre leur théorie, pour le coup, bah, pro-noir, et puis le réel. Parce que, mine de rien, d'un point de vue purement pragmatique, les femmes ont quand même compris que généralement, plus la peau est claire, plus ça donne un avantage de séduction. C'est pour ça qu'elles utilisent leurs produits. Ça, c'est la base en fait du maquillage en fait. Et même les noirs l'ont compris d'ailleurs. Les produits qui sont censurés là avec le mot blanc, blanchitude, blancheur, ce que vous voulez. En Afrique, ils sont utilisés à gogo parce qu'en fait, elles ont compris ça. Ça fait même partie du dimorphisme sexuel. Vous savez, le dimorphisme sexuel, c'est cette séparation entre les mâles et les femelles parmi la même espèce. Donc, par exemple, un dimorphisme sexuel chez l'être humain, ça va être l'apparition des poils sur cette partie du corps chez les hommes et pas chez les femmes. Et ben, la couleur de peau, c'est aussi le cas. Vous prenez même des peaux très très noires en Afrique. Et ben, chez les femelles, pour le coup. Eh ben, la peau sera toujours plus claire que chez les mâles. À tel point qu'il y a eu une expérience qui a été faite où en fait on montrait un visage plutôt asexué, on ne savait pas trop différencier si c'était un homme ou une femme, on va dire d'un visage plutôt foncé. Et en fait les traits étaient exactement les mêmes. Ce qui changeait, c'était juste la couleur de la peau, qui est un peu plus claire pour un et un peu plus foncé pour l'autre. Et on demandait aux gens, prononcez-vous, est-ce que c'est un visage d'homme ou est-ce que c'est un visage de femme ? Et donc tout le monde a indiqué le même résultat, c'est-à-dire que plus la peau est claire, plus c'est un visage de femme, alors qu'en fait c'était juste les traits étaient typiquement les mêmes.
Hmm. En Chine d'ailleurs, une petite chose, c'est que les produits de beauté, donc j'en ai parlé déjà avec des Chinois, mais c'est qu'en fait oui, il y a beaucoup de produits de beauté qui vantent la blancheur officiellement en Chine, parce que les filles bronzées, que ce soit l'effet du soleil ou que ce soit la conséquence de leurs origines ethniques. La peau bronzée, allée, n'est pas du tout valorisée auprès des hommes notamment. Hein. Donc voilà, la blancheur est officiellement, hein, vous pouvez trouver des produits officiels qui vendent ça, la blancheur. Hein. Donc là, c'est L'Oréal prend exactement pas exactement le contre-pied, mais va dans un sens complètement opposé à ce qui se fait dans plein de pays du monde, notamment la Chine.
Alors, en Corée aussi beaucoup.
Oui, l'autre.
Le résultat, ça va être qu'ils vont perdre des clients au lieu d'en gagner. L'histoire que j'ai citée en exemple, les femmes qui fument et qui se montrent plus indépendantes, ils ont gagné des consommateurs, des femmes qui fument. Mais ici, ils vont perdre des consommateurs, des femmes qui se maquillent avec leur marque.
Oui, la blancheur, en fait, là, on a un problème, en fait. C'est-à-dire que ces marques-là, donc qui participent, donc ces grands groupes, hein, L'Oréal, c'est des très grandes fortunes, hein. D'ailleurs, désormais aux mains des Juifs, notamment grâce à la coopération de Sarkozy. Vous vous intéresserez à l'affaire Bettencourt, vous apprendrez beaucoup de choses. Donc L'Oréal est une marque juive, sachez-le. Peut-être un nom français, mais c'est une marque juive. Cette marque donc, participe donc, du processus que j'ai décrit un petit peu précédemment. Je ne vais pas y revenir. Mais là, elle heurte paradoxalement, l'opinion extra-occidentale. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que quand vous allez, même en Afrique, donc tu l'as bien dit Pierrot, les produits de blanchissement, etc., de la peau, je veux dire, c'est présent partout. En Inde, c'est la même chose. Donc l'Inde, c'est un très grand marché. On parle d'1 milliard de personnes. Ça ne veut pas dire qu'un la moitié de la population, les 500 millions de femmes indiennes consomment ces produits. Mais c'est un pays qui émerge quand même d'une certaine façon. Et il y a quand même un nombre important de femmes qui consomment des produits cosmétiques là-bas aussi. Et on sait que ces femmes-là ne veulent pas être plus foncées. Elles veulent être plus claires. Elles veulent être plus claires. Comme tu l'as très bien dit aussi, Alexis, c'est le cas en Chine et d'une manière générale en Asie. C'est-à-dire que la blancheur comme critère esthétique pour une femme est pour ainsi dire universelle.
Or, ça a été le cas beaucoup chez nous au 19e aussi. Le fait d'être bronzé, c'était assimilé aux paysannes beaucoup, donc c'était pas valorisé. C'est assez récent qu'il y a eu la mode des filles bronzées.
Ouais. Oui, c'est beaucoup plus lié à la plage d'ailleurs, que ça rappelle les vacances, l'été, des trucs comme ça. Mais comment dirais-je, là, il y a une contradiction entre ce que veut le marché mondial et ce qu'essaye de faire cette grande marque, comme d'autres marques, mais sur ce créneau précis là, de la beauté, d'essayer d'imposer la beauté nègre. C'est-à-dire que le nouveau canon de beauté qu'essaye d'imposer L'Oréal, c'est la négresse. C'est ça qu'ils essayent de faire, d'accord ?
On a eu encore Calvin Klein là récemment qui a fait la promo d'une. Alors c'était quoi ? C'était une lesbienne transgenre noire. Enfin,
C'est ça. C'est un transsexuel noir en surpoids qui est avachi sur un canapé en portant un Calvin Klein. Et 10 ans auparavant, il y avait une comparaison qui était faite où on voyait une affiche Calvin Klein et c'était une très belle blonde, très athlétique, qui portait grosso modo le même produit, quoi. Donc, cette espèce d'inversion non seulement des valeurs, mais même de l'échelle des valeurs qui est en place s'applique aussi à l'esthétique. Donc tout ce qui est laid devient beau, tout ce qui est beau devient laid, sauf que ça ne marche que dans le monde occidental, entre guillemets. Et à l'extérieur, ça n'est pas le cas. Et la négresse ne sera jamais un canon de beauté, ni en Inde, ni en Asie, ni même en Amérique du Sud. Faut pas se mentir. Faut pas se mentir là-dessus. Et là, ils font fausse route. Ça ne peut pas marcher. Alors vous allez me dire, ils vont pouvoir quand même essayer de faire pression sur les blanches en les culpabilisant, oui, sauf qu'à un moment, non. Une femme, quand elle se maquille, c'est pour se valoriser. C'est pas pour signifier qu'elle est intrinsèquement dévalorisée parce qu'elle est blanche. Ça ne peut pas marcher. Vous pouvez dire, notre marque célèbre toutes les beautés, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Bon. Oui, ça c'est une chose. Mais de dire, non, le blanc là, c'est. Non, c'est pas possible. Le blanc là, c'est pas possible. Vraiment, là. Non. Pas bien. Non, c'est. Il se plante. Complètement. Et j'ai vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux qu'il y a eu une réaction. Hein. Parce que c'est pas la première fois qu'on a des conneries de discrimination positive. Nous, on va embaucher plus de noirs, plus de trucs. C'est pas la première fois. Mais c'est la première fois que je vois des gens qui disent non, là, on boycotte L'Oréal, c'est de la merde. Au point d'être en tendance, quoi, sur le Twitter français.
Je pense que c'est rien du tout en termes de chiffres. Et je pense que c'est. Il y aura très, très peu d'impact sur leur marché. Moi, j'ai rien pour. Enfin, qu'il s'effondre, je n'ai strictement rien à foutre. Mais ça concerne très peu de monde, là, l'opération de boycott. Et puis, il faut se dire une chose, c'est que le marché en Europe, il a évolué. Qui est-ce qui consomme des produits de beauté? Des femmes jeunes. Et je suis désolé, mais les femmes jeunes, elles sont toutes de gauche et tiraillées par les contradictions du féminisme intersectionnel, enfin, pour les blanches. Ou alors, ce sont des halogènes. Et
pas partout en Europe, hein. Je veux dire.
Peut-être pas partout en Europe, mais moi, les marketeurs peuvent faire beaucoup de conneries, ils peuvent s'empêtrer dans la signalisation de la vertu, mais très honnêtement, là, je pense que ça n'aura aucun impact. Et moi, je pense qu'en fait, il y a une évolution des produits de beauté vers des produits en fait qui correspondent de plus en plus à la carnation naturelle des consommatrices, notamment via toutes les youtubeuses beauté et compagnie qui, faut le savoir, hein, moi j'en ai pas, j'ai appris ça d'une gonzesse, mais les youtubeuses beauté
ont été indignés de ne pas recevoir des marques, des produits de beauté à leur carnation propre. Elles se sont senties humiliées. Donc en fait, il y a une explosion des produits de beauté carnés, enfin carnés, c'est-à-dire adaptés à la couleur naturelle. Et en fait, chacun s'oriente plus ou moins où il veut, sachant que globalement, bah voilà, on s'oriente vers sa couleur de peau naturelle, avec peut-être éventuellement chez les blanches un peu dégénérées, peut-être une couleur de peau un peu plus foncée, et chez les beurettes un peu plus occidentalisées, une couleur de peau un petit peu plus claire. Mais je pense que tout ça, c'est surtout une opération de signalement de vertu qui cache un glissement de marketing. Moi, je vois les choses comme ça.
Moi, je pense que, le fait que ça marche sur Twitter, ça, c'est pas une révolution copernicienne, mais c'est un point d'inflexion. Je pense que c'est pas du tout anodin. Je pense que c'est pas du tout anodin.
C'est rien. Franchement, c'est rien
Non,
du
non, non,
tout.
mais je veux dire,
Twitter, c'est rien.
Non, non, mais d'accord. Mais moi, je pense que c'est un point d'inflexion important. Et pour la raison suivante, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de bruit de fond de blanc qui gueule. Il n'y en a jamais eu. D'accord? Ça fait très longtemps qu'on se fait cracher dessus, mais il n'y a jamais eu des blancs qui ont dit bon, maintenant ça suffit. On n'entendait jamais rien, sauf peut-être, bon, oui, les identitaires, d'accord, mais le bruit de fond. Là, pour la première fois, on a un bruit de fond. On a des gens qui disent bon, là, ça, comme, bon, L'Oréal, vous nous gavez. Et puis, même des gens, je veux dire, j'ai vu des députés de droite lambda, vous savez, des gens qui sont quand même très frileux, je les ai vus sortir du bois, même j'ai vu des centristes aussi retweeter là-dessus, etc. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous voulez, que ils sont obligés, faites-moi confiance que les mecs du marketing de L'Oréal, ils vont regarder ça. Quand vous avez des députés, des journalistes un peu connus, et que ça fait comme ça une espèce de bruit, là, il se passe quelque chose. Bon, on n'a peut-être pas eu tort, peut-être qu'on avait raison de faire ça, mais ça a entraîné une réaction, il faut analyser cette réaction. Ça, si ça perdure, je veux dire, d'une manière générale, je veux dire, si voilà, il y a une autre marque qui s'amuse à... Croyez-moi bien que les mecs vont commencer à peser le pour et le contre. Jusqu'à présent, ils ne pèsent jamais le pour et le contre parce que c'est univoque. Ils se disent, ouais, allez, on fait un truc pour les nègres. On n'aura que des bons points. Tout le monde va dire bravo, génial, continuez, super. Là, maintenant, et c'est en ça que je dis que c'est un point d'inflexion, il y a un mouvement d'opinion qui se forme, qui va avoir besoin de temps, si vous voulez, pour se sédimenter, quoi, mais qui se forme, bel et bien, qui dit, attendez, vous faites vos trucs, mais si vous nous crachez à la gueule, là, on ne va pas être copains. Et là, les mecs, ils vont commencer à dire, quand ils vont faire leur stratégie marketing, ils disent, attention, ok. Si on démarche des populations de couleur, d'accord, mais dans la façon dont on l'annonce, dont on le fait, etc., il faudra être peut-être plus prudent, ou faire différemment, etc. Et ça change quand même le paradigme. Parce que jusqu'à présent, ils nous passaient dessus, et ils nous disaient qu'ils nous passaient dessus. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Je pense que ça va s'établir dans la durée, donc au fil des ans, au point de devenir un vrai courant. Et il y aura forcément des gens qui seront pas idiots, si vous voulez, parce que il y a quand même un marché. Je pense qu'il y aura même des petits malins qui diront, attends, vous avez vu ça, ce qui se passe là? Pourquoi on n'occuperait pas ce créneau-là, nous, vous voyez? Pas au point de faire une marque, tiens, on va faire une marque pour les blancs, c'est pas ce que je veux dire, mais d'être suffisamment habile dans leur communication pour justement revenir, alors si on est dans le domaine du cosmétique, bah peut-être revenir, si vous voulez, à une communication beaucoup plus traditionnelle, avec effectivement des belles femmes blanches, etc. Des blondes, des rousses, etc., mais qui soient valorisantes, vous voyez, et qui soient, une marque qui ne fasse figurer aucun élément du discours intersectionnel. Où vraiment, c'est classique. Ça sera suffisant pour plaire, en fait, à des blancs normalement constitués. À des blanches normalement constituées, disons. Et il y en a quand même. Donc voilà. Pour moi, c'est pas du tout anodin. Pas du tout anodin.
Je pense que ça viendra pas des grandes marques, hein. Ce sera
De toute
vraiment du marché
façon,
niche à la base.
Si je puis me permettre, je ne voudrais stresser personne, mais je vous rappelle quand même que à Paris, Porte de Versailles, a lieu chaque année le Congrès international d'esthétique. Alors, c'est organisé par un magazine international qui s'appelle Les Nouvelles Esthétiques, qui est la propriété de la famille Delattre. C'est déjà quand même pas rien. essayer d'imaginer ce que va donner le prochain salon, puisque à l'heure actuelle, nous devons avoir dans le cadre de la beauté et de l'esthétique les femmes, les transgenres, les tarlouses, les PD, des mecs qui trouvent tout à fait normal de se pomponner en étant costard trois pièces et talons aiguilles. À ça, on va rajouter le problème des gens de couleur, et il va falloir que l'intégralité des fabricants de produits cosmétiques s'adaptent à tout ça. Écoutez les gars, moi je prends une place pour le congrès l'année prochaine, parce que c'est un spectacle de zoologie qui promet d'être très intéressant, mais vraiment très intéressant. Même au zoo, on ne nous offre pas un truc pareil. Et je me mets un peu à la place des organisateurs de ce congrès qui, pour l'instant, doivent être en train de s'arracher les cheveux en disant « Mais comment est-ce qu'on va faire avec des tarés pareils ?»
Ah, de toute façon, je pense que ça trompe personne. Il y a une réalité biologique qui est derrière et qui peut vraiment tromper personne. À chaque fois qu'il y a eu du forcing pour essayer de promouvoir, on avait déjà parlé dans une émission, promouvoir des super négresses, etc., genre Miss Univers. Ils ont fait du forcing sur Miss Univers, parce que c'était noir. Faut être honnête, c'est un mec. Miss Univers, là, la dernière, c'est un mec. Voilà, c'est... D'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez, mais quand ce qui peut exister des belles femmes noires, il n'y a pas de souci, hein, je vais bien le reconnaître. Mais quand les gens remarquent ça, en fait, vous regardez un peu le visage, en fait, elles ne sont pas vraiment noires. Vous avez remarqué, en fait, elles ont les... C'est des métisses souvent. Elles ont le teint assez clair, voilà. Et les noirs qui font... Oui, regardez la beauté noire, comme elle est belle, Beyoncé. Beyoncé, elle n'est pas du Congo, Beyoncé. Hein. Je suis désolé, elle est quand même... Elle a des traits assez européens. D'ailleurs, je crois que c'est d'ailleurs, en plus, c'est une métisse... Je crois que c'est une métisse aussi, une part française d'ailleurs. Ce n'est pas une blague, mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Bref, on s'en fout.
Bon, oui, mais, y compris des gens qui veulent nous détruire via la pornographie de masse, par exemple. Si vous avez, je ne vous conseille pas de regarder forcément ces sites, mais vous pouvez quand même faire l'expérience quelques minutes ou quelques secondes. Si vous, de n'importe quel site porno, vous aurez peut-être beaucoup d'acteurs noirs, mais beaucoup de femmes blanches, parce que la beauté, ça va être beaucoup assimilé à ça. Alors, qu'on le veuille ou non, ils sont obligés de le reconnaître comme tel.
Et après, sur l'histoire de voilà, L'Oréal ou une autre marque, hein, j'ai envie de dire peu importe, hein, je pense qu'à partir d'un certain niveau, il y a un plafond de verre, en fait, et je ne sais pas seulement des raisons économiques qui poussent les marques à faire des choix. Il y a aussi des raisons politiques.
Oui.
Et je pense qu'il y a très clairement des décideurs qui sont prêts à perdre un peu de pognon de manière tout à fait consciente, hein, parce qu'ils ont un objectif politique. On va en reparler après pendant l'émission avec l'histoire du jeu de rôle, mais ouais. Bon, c'est mon avis.
Oui, et puis on a recyclé beaucoup de gens très improductifs dans ces sociétés qui ont un pouvoir de décision et qui sont très 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 orientés. Hein. Toutes ces gonzesses là qui sont directrices marketing, qui font de la communication. Pas forcément dans des grosses boîtes d'ailleurs, qui font de la gestion des réseaux sociaux. Elles viennent très souvent, à dire des milieux de gauche, des facs de gauche, et c'est pas forcément des lumières. Hein. Et elles sont là parce qu'elles ont les bons réseaux, parce que papa a la boîte en fait,
ouais.
Parce que papa est un copain, ouais. Un patron. Donc faut pas oublier ça. Il hein. Y a eu, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, l'histoire de du Raptor dissident qui s'est fait pas striker mais qui a eu un partenariat annulé.
Ah oui, tout à fait, oui. Oui, oui.
Et bon, alors je crois qu'en fait le community manager ou la personne qui gère les partenariats n'a pas compris qu'elle bossait pas chez Ben & Jerry's et que son public ça
c'était
cible...
C'était une marque de VPN en l'occurrence.
Ouais, c'était une marque de VPN. C'était pas des grosses qui sont sur Netflix à bouffer de la glace. Ce sont des gens qui sont sur Internet et qui veulent regarder le contenu qui les intéresse. Et qui, justement, veulent être anonymes et ne veulent pas être jugés en fonction de leur orientation politique. Faut pas oublier ça. Hein. Il y a beaucoup toutes ces gonzesses-là sont des cruches, hein, et ne s'occupent que de la vertu et non pas de la rationalité.
Typiquement la mode, chez L'Oréal ou chez d'autres, qui compose le domaine de la mode ? Des bourgeois, des PD, des femmes. Voilà, ça c'est déjà 99% des ressources humaines.
Alors messieurs, bon, vite fait, hein, mais il faut quand même le souligner, la statue de Colbert à l'Assemblée nationale a finalement été ciblée par les suprémacistes noirs. Hein. Elle a été taguée à la peinture rouge, ça a été filmé, cette altercation-là. C'était un membre de l'organisation suprémaciste noire qui s'appelle Brigade Anti-Négrophobie. Et il était écrit sur donc le tag, disait la chose suivante, « Négrophobie d'État ». Alors, on a l'impression que c'était il y a 1000 ans, mais non, non, c'était il y a quelques jours seulement. Mais il se passe tellement de choses qu'on a du mal à suivre. Est-ce que... Bon, je pense qu'on a déjà parlé hein, des statues qui sont enlevées, etc., bon, assez abondamment, mais enfin bon, je voulais quand même qu'on dise que ça ait eu lieu quand même, puisque finalement, elle est quand même l'objet de beaucoup d'agressivité de la part d'un certain nombre de personnes. D'ailleurs, au point de débaptiser des établissements scolaires dans l'Est de la France. Quelqu'un veut-il dire quelque chose là-dessus ou pas nécessairement ?
Oui, moi, juste pour dire, j'en parlais en début d'émission, moi, je les préfère comme ça, l'Imetec, clairement. Voilà, en mode agressif, revendicatif, etc. Voilà, ça, c'est des... Comme ça, on voit directement la différence. Il n'y a pas de... Hop, c'est réglé.
Oui, c'est plus clair. Tout à fait, c'est plus clair, si je puis me permettre cette expression. Alors, avant qu'on bascule sur effectivement la question des jeux de rôle, hein, toujours sur la même discussion fondamentale, je sais pas si vous avez vu ça, mais l'église anglicane en Angleterre a annoncé la purge prochaine des statues, donc de sa statuaire, dans les églises du pays, qui pouvaient poser problème donc au terme du culte qui doit être rendu à George Floyd. Hein. Donc, s'il y a des statues de personnages historiques éventuellement, peut-être qui ont été enterrés dans telle ou telle église, ou bien s'il y a un saint dont le passé finalement serait problématique, bon, bah tout ça, ça va être viré et les chefs de l'église anglicane ont dit que de toute façon il y aurait des statues qui disparaîtraient. Alors, donc là, c'est un point qui m'intéresse beaucoup, ça, c'est ce qu'on est face à un mouvement religieux, on l'a dit, on a souvent précisé ça, enfin, en tout cas ceux qui vont dans la rue, qui manifestent, alors les nègres, c'est vraiment pour régler des comptes, mais les blancs, eux, qui s'y rendent, c'est vraiment, ils sont dans une démarche religieuse, c'est très évident. D'ailleurs, les statistiques sont sorties, je crois, aux États-Unis, j'ai vu ça, c'est passé sur les réseaux sociaux, j'ai vu que ils ont fait une évaluation de la composition raciale des manifestations Black Lives Matter, en moyenne, sur la base de leur téléphone portable, c'est comme ça qu'on a pu identifier qui quoi, en moyenne, 85% des participants sont blancs. Donc, paradoxalement, le mouvement Black Lives Matter est un mouvement blanc. Contrairement à une idée reçue, hein, je veux dire, il y a des noirs, il y a des noirs agressifs, mais l'essentiel, l'écrasante majorité de ce mouvement est un mouvement de blancs contre d'autres blancs. D'accord ? Avec les scènes qu'on a vues, qu'on a commentées ici en rigolant beaucoup. Et donc, ce mouvement ne se cantonne pas uniquement à la rue, ne se contente pas aussi faire du vandalisme et de l'iconoclasme. En tout cas, pas uniquement dans l'espace public, puisque là, on va carrément maintenant dans l'espace strictement religieux. Donc on voit que le religieux, il y a une forme de syncrétisme qui se forme. L'Église anglicane stipule que voilà, les lieux de culte en Grande-Bretagne vont devoir être conforme avec cette nouvelle idéologie raciale ou cette nouvelle religion raciale qui place en fait hein, le nègre au-dessus du reste de l'humanité. Qu'est-ce que... Vous pouvez peut-être m'en dire un truc là-dessus ? On n'a pas vu ça en France, hein, je le précise. Hein. Finalement, encore assez en retrait. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, cette purge cette purge religieuse ?
Je trouve ça très bien. C'est,
oui, bah oui, ça va dans le bon sens. Oui, bah oui.
Ça va dans le bon sens.
C'est normal. D'ailleurs, tu es peut-être en relation avec les autorités anglicanes, cher cardinal.
Oh, par la pensée, tout à fait. Nous
sommes, en communion.
Nous sommes en communion de prière, tout à fait.
Quelqu'un d'autre là-dessus ? Ou plus largement
sur... Par hasard, sa très gracieuse majesté Elisabeth II a marqué son accord, puisqu'elle est quand même la chef de l'église anglicane.
Effectivement, bah apparemment, en tout cas, elle n'a pas fait connaître son désaccord, en tout cas. Mais bon. Non, mais le rôle des églises est très intéressant. Je pense qu'il faut les observer de près, puisque, vous savez, ici, on a dit ça souvent, mais on assiste à la formation d'une nouvelle religion. Je pense que c'est très dangereux, en fait. Hein. Moi, je crois que c'est très dangereux ce qui est en train de se passer, parce que, vous savez qu'on a connu en Occident une phase de déchristianisation intense, mais vous savez aussi que la nature a horreur du vide. Alors, pendant très longtemps, les gens ont cru que l'islam allait occuper le vide, du moins en Europe de l'Ouest. Dans une certaine mesure, c'est vrai.
C'est l'homme marron qui remplace.
En fait, le truc, c'est que l'islam, si vous regardez l'attitude des musulmans, même des islamistes, les musulmans sont assez peu intéressés par ce que font les blancs, en réalité. En convertir quelques-uns ici ou là, oui, ils aiment assez ça. Mais grosso modo, quand vous regardez leurs thématiques, c'est des thématiques très communautaires. Donc ils veulent manger d'une certaine façon, ils veulent prier d'une certaine façon, ils veulent que leurs femmes se comportent d'une certaine façon, et ils veulent pas qu'on se mêle de leurs affaires. Bon. Mais vous entendez très rarement les musulmans dire « Ah voilà, vous les blancs, vous devez faire comme ça, vous les blancs, vous devez faire comme ci, etc. » Je veux dire, pour ce qui concerne leur religion, quoi. Donc c'est assez auto-centré, ce que je veux dire. Mais ils sont néanmoins prosélytes par la force des choses, mais uniquement pour des raisons purement démographiques. Mais c'est pas ça... En fait, ce que je veux dire, c'est en fait, le roman de Houellebecq n'a pas l'air de devoir advenir. Visiblement, les Blancs ne vont pas se tourner vers la religion musulmane. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, ils ont l'air de vouloir se tourner vers un truc qui est complètement différent, qui est hybride, vous voyez, où vous avez des bribes de mentalité chrétienne, vous voyez, mais sécularisées, des bribes de marxisme, des bribes de haine de soi, anti-blanche, culpabilisation anti-blanche, complètement intégrée. Tout ça qui commence à se solidifier, vous voyez, pour former une espèce de tout, mais qui doit avoir une dimension religieuse. Et je suis très frappé de voir comment les autorités soutiennent ce truc. Hein. Je l'ai dit longuement là dans l'émission, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ça ressemble de plus en plus à une espèce de nouvelle religion d'État, vous voyez. Si vous, par exemple, si vous... manifester votre désaccord, comme ça a été le cas de ce gars en Angleterre avec son petit avion, là, vous êtes excommunié, c'est très clair. Vous n'avez plus de vie sociale, vous perdez votre boulot, votre femme perd son boulot, parce qu'évidemment, c'est contagieux. Dans la foulée, hein, ils n'ont même pas posé la question à la femme, savoir si elle était d'accord, contre... Voilà. Tout le monde est viré, vous êtes mis au banc de la communauté, il y a l'excommunication et les conséquences sociales de l'excommunication. Je crois que ça, c'est très dangereux. Il y a vraiment... Si ça continue, et visiblement, des gens qui ont beaucoup d'argent veulent que ça continue, j'ai l'impression qu'on voit la formation d'une nouvelle religion. Et dans ce cas précis, vous voyez, de voir des églises qui sont un petit peu les réceptacles d'une certaine tradition spirituelle, malgré tout, même si elles sont dégénérées, comme dans le cas de l'église anglicane, puisque l'église anglicane, ils ordonnent même des évêques homosexuels, hein, donc ils en sont là, donc si vous voulez. Je crois que ça devient... Ça peut aller au bout du processus et devenir une véritable religion, avec tout ce que ça suppose. Hein. C'est pas forcément une bonne nouvelle, hein. À mon avis. Je sais pas si...
Pour les nègres, c'est une très bonne nouvelle. Ils
ah oui,
doivent
ça.
Jubiler. Voir des gens s'agenouiller devant eux, ils doivent avoir des demi-molles. Hein.
Tout à fait. Est-ce que vous constatez ça comme moi vous constatez
cas,
ça...
Il y a une convergence de... Oui, il y a une convergence des anciennes églises, le catholicisme, les anglicans, une bonne part des protestants. Au culte de l'homme marron, quoi. C'est clair. Hein.
Ouais.
Bergoglio, on voit ce que c'est. Et ça se. Et ça va avec le. Ce qu'on a dit en début d'émission sur le. Comment s'appelle-t-il là, de Villiers.
Oui.
Ces gens veulent. Le nègre. Il faut le sauver quelque part. Bon, quelque part, le nègre doit être un petit peu Jésus.
Oui.
C'est. Bon. Ça pue la mort, hein, très clairement, mais ça. Dans l'époque, ça a de bonnes chances d'avoir un certain succès.
Ouais. Ah bah là,
les tribunaux sont. pardon, les tribunaux sont terrestres, c'est-à-dire que là, c'est pas le jugement, c'est un petit peu le même rôle qu'avait l'Inquisition, hein, c'est-à-dire de chasser ceux qui n'étaient pas normalement dans la bonne ligne qu'il y avait. Mais oui, après, je pense qu'il y a beaucoup de gens en Europe aujourd'hui ne croient plus en la vie après la mort. Ça me semble quand même être une marque assez nette. Et donc, peut-on parler de religion s'il n'y a pas de vie après la mort? C'est en fait, c'est une sorte d'idéologie, quoi, une religion, mais au sens terrestre, quoi. Même si on fait effectivement appel à un mort. Quel genre
Oui,
de...
alors, il ne croit pas à l'au-delà, par contre, il croit à la parousie antiraciale. Donc, il se moque des gens qui croient à l'enfer au paradis, mais ils sont quand même très millénaristes dans la façon de voir le monde. Et moi, quand je vois ces gens, ça me fait penser aux processions de flagellants, aux porteurs de
Tout
croix.
à fait.
Et je pensais déjà à cela, et je crois qu'on a déjà utilisé le terme, avant de voir des gens qui se flagellent réellement,
Ah bon, on l'a vu ça, et ça a eu
physiquement.
lieu. Ouais, ça a eu lieu aux
Ça a
États-Unis,
eu
ouais.
lieu. C'est très européen, et quand tu vois ça, tu te dis que oui, en fait, les Européens ont ça ancré en eux. Est-ce que ça datait d'avant le christianisme? Ça, je ne sais pas. Mais penser comme ça, porteur de la croix, porteur de la réalité raciale,
Alors, il faut
c'est très
que
européen, hein, c'est très blanc.
je, comment dirais-je, je ne saurais que trop recommander à ceux qui comprennent l'anglais de se reporter un article publié le 21 juin sur la revue qui s'intitule la revue en ligne qui s'intitule The Occidental Observer. Donc l'observateur occidental, si vous préférez, qui a été écrit par le docteur Andrew Joyce. Et qui justement s'intitule, bon, en anglais, hein, Latter Day Flagellants, Christianity and the Politics of Evil. Donc les flagellants des derniers jours, chrétienté et la politique du mal. Et dans cet article, justement, il fait ce rapprochement avec les flagellants. Alors, nos auditeurs savent peut-être pas forcément ce qu'étaient les flagellants. C'était au Moyen Âge des gens qui sillonnaient les routes de l'Europe médiévale en se flagellant, littéralement. Ils avaient des fouets et ils se fouettaient jusqu'au sang. Et dans l'article, il y a des extraits très intéressants de témoins de l'époque qui citent ce qu'ils voyaient. Notamment, il y a un cas en Angleterre, donc là, on est dans le Moyen-Âge, dans le XIIIe siècle, je crois, où le témoin voit donc une procession de flagellants passer comme ça. Et il dit, donc les fouets ont des morceaux de métaux, et il dit, les types se frappent tellement fort que pour enlever le fouet de leur propre dos, ils doivent s'y reprendre à plusieurs fois, tellement les morceaux de métaux pénètrent dans la chair, quoi. Donc les types sont complètement ensanglantés, et apparemment c'est des spectacles vraiment, c'était vraiment gore, hein, c'est-à-dire le sang éclabousse les gens qui sont autour, les murs, etc. Enfin, c'est vraiment très, 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 très spectaculaire. Et comment dire, alors pourquoi Andrew Joyce s'interroge, c'est très curieux de voir le retour de ce genre de phénomène, et, parce qu'il insiste sur un point très important. Non, ça doit être au XIVe siècle, je crois. Enfin, bon, je me rappelle plus trop. Mais toujours est-il que c'était après la survenue d'épidémies. Donc je pense qu'on est au XIVe siècle. Et donc ce mouvement a émergé après les grandes épidémies de peste. Et donc ces gens disaient, enfin ces flagellants disaient en substance, voilà, nous sommes des pécheurs, cette maladie, enfin ce fléau qui nous tombe dessus est une punition divine, parce qu'en fait nous vivons dans le péché, nous prétendons être chrétiens mais nous ne le sommes pas assez, donc il va falloir faire repentance, il va falloir se repentir de tous ces péchés, et il va falloir le faire physiquement, pas uniquement, c'est ça c'est un point très, très important dans ce mouvement des flagellants. Il ne faut pas seulement aller à la messe et comment dirais-je, communier, parce que dans la tradition catholique, après la confession, normalement, après la confession et ensuite la messe, les péchés sont pardonnés. Ça ne suffit pas, disent les flagellants. Il faut souffrir dans sa chair pour être à l'image du Christ, n'est-ce pas? Et Andrew Joyce est très frappé de voir que ce mouvement ressurgit alors de manière un peu différente. Et il se demande, il dit à quel point c'est quelque chose qui est présent chez les Blancs, en fait. Alors, il revient longuement là-dessus. Donc, cette analogie est très intéressante, très très intéressante. Et d'ailleurs, pour l'Église catholique, qui au départ verra le mouvement des flagellants plutôt d'un bon œil, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est des gens très zélés, en fait, ce mouvement commencera à générer des formes d'hérésie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a certains groupes de flagellants qui diront « Non, non, la communion, ça sert à rien. » Donc de pré-protestantisme, si vous voulez. De dire « Voilà, non, aller à la messe, ça sert à rien, etc. C'est pas comme ça qu'on aura le salut. Voilà. » Donc, au départ, bien vu, le mouvement a été rapidement condamné. Mais c'était un mouvement radical, sur fond aussi de mentalité apocalyptique. Quoi, hein, c'est-à-dire la fin du monde approche. Quoi, hein, la fin du monde approche, il faut vite se repentir si on veut pouvoir être sauvé, et ça veut dire de littéralement de souffrir, hein, physiquement.
Oui, d'autant plus que ces gens sont, je pense, très marqués par les théories du réchauffement climatique, de
Tout
l'urgence
à fait.
Climatique et compagnie. Hein. Ce sont exactement ces mêmes personnes qui vont culpabiliser de prendre une douche chaude. Hein. Ce sont les mêmes personnes.
Et qui s'inclinent devant la prophétesse Greta Thunberg. Il y a ça aussi, il y a le phénomène des faux prophètes. Hein. C'est oui. Les gens ont besoin d'incarnation d'une certaine manière, mais là on voit une fille qui a 14 ans qui n'a même pas son baccalauréat, enfin, l'équivalent du brevet des collèges en France, et sur qui toutes les caméras du monde se braquent, sans qu'on s'interroge plus que ça. On peut rencontrer Obama, le pape, disserter sur ce que c'est que le climat, sur ce que c'est que l'énergie, la production d'énergie, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, le bienfait du plastique, ou des éoliennes plutôt. Bon, bref, c'est n'importe quoi, mais certains ont fait le parallèle dans des livres, je crois que c'est en allemand, assez récemment, mais sur ça. Mais pardon, MacDaf, je t'ai coupé.
Oh non, t'as tout dit.
Y a, juste pour l'anecdote, je dis ça comme ça, mais vous avez vu, il y avait au Parlement, il y a la gauche radicale qui avait proposé un certain nombre de motions à adopter, elles ont été rejetées, mais elles ont été proposées, et Glucksmann, donc, qui est élu pour le compte du Parti Socialiste au niveau en tant qu'eurodéputé, donc le juif Glucksmann a paraphé ça. Parmi les propositions qui ont été avancées par la gauche radicale, le fait de considérer le réchauffement climatique comme raciste. Vous voyez, on en arrive. C'est-à-dire que la synthèse est en train de s'opérer. D'accord ? Donc vous avez une forme d'écologie apocalyptique. Ça donne des gens... Enfin, c'est lunaire, hein, mais je veux dire, les types, ils vous annoncent la fin du monde dans 10 ans, tous les 10 ans, vous savez. Bon, vous avez cette vision apocalyptique-là. Vous avez la question du racisme. Ça, c'est le péché originel, vous savez. Et tout ça est en train de se synthétiser. Puis en gros, il y a le Covid. Alors le Covid, ça, c'est le fléau. Le fléau divin, vous voyez, ça arrive d'un coup comme ça, et tout le monde doit se vacciner. C'est complètement aberrant ce qu'on est en train de voir, mais tout ça converge, quoi. Et au bout d'un moment, ça va faire système, quoi. Si c'est pas déjà le cas.
Mmh. Oui, bon, il y a des manipulations extrêmement perverses, parce que même le réchauffement climatique, bon, mettons que, à la rigueur, ça augmente de quelques degrés sur quelques phases de la planète. Bon, d'abord, il faut savoir, est-ce que c'est lié au mouvement des planètes? L'influence de solaire, personne ne sait. Enfin, il y a des recherches qui sont faites à un haut niveau, mais il n'y a pas de consensus. Est-ce que c'est l'activité humaine qui, dans une certaine mesure, l'est? Si oui, est-ce que c'est plutôt le charbon, par exemple, qu'utilisent massivement les Allemands ou les Chinois? Alors, certainement pas les Français, donc c'est encore plus stupide de dire que les Français, nous, on serait responsables de ça massivement, j'entends. Mais ce qui est encore plus con, c'est que certains vont dire, bah oui, mais du coup, on nous raconte des conneries avec Greta Thunberg, ça veut bien dire qu'il n'y a aucun souci écologique. Alors qu'en fait, si, il y en a bien sûr. Il y a toute la pollution des mers via le plastique. Il y a les abeilles qui disparaissent, qui est une catastrophe. Hein. De même, le ver de terre, puisque s'il n'y a pas de ver de terre, il n'y a pas de fertilité de la terre. Donc c'est des réels problèmes écologiques en réalité. Donc ça fait un peu hippie peut-être de dire ça, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental. Il y a aussi par exemple la baisse de la fertilité masculine. On ne sait pas trop à quoi c'est dû, est-ce que c'est des ondes, est-ce que c'est, je ne sais pas, la nourriture, etc. Mais voilà, il y a tout un tas de problèmes biologiques réels, mais c'est occulté parce que c'est monopolisé par des cons ou par des faux prophètes, comme Greta Thunberg, relayé par les médias, financé par qui on sait.
Tu oublies la prolifération d'une certaine espèce.
Des rats.
Parmi le problème écologique
le plus prégnant.
Voilà, bah commençons par éradiquer les rats de Paris d'abord avant de parler du réchauffement climatique. Déjà, ça serait pas mal. Hein.
Ah, Hidalgo, elle est réélue ou pas? Est-ce que vous savez ça?
Ouais, elle est réélue.
Bon, bah alors les rats sont toujours les bienvenus à Paris, ne vous en faites pas trop pour eux.
Et les singes.
Et les singes, et les singes. Alors messieurs, pour terminer cette émission, nous allons parler toujours hein, sur cette révolution culturelle qui est en train de se déployer. C'est le monde du jeu de rôle. Je crois qu'on a tous joué à des jeux de rôle à un moment ou à un autre. En tout cas, beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos auditeurs aussi. Et alors, c'est une annonce qui est très symbolique. Hein. Ça a été fait par Wizards of the Coast, qui est une marque très connue de jeux, puisque bon, ils produisent notamment le jeu Magic Cards, The Gathering, pour ceux qui connaissent, et Donjons et Dragons. Alors là, on y vient. Donc là, je cite un article de Japan FM, c'est là-dessus que j'ai trouvé ça. Voici ce que ça nous dit. Donc, les développeurs Wizards of the Coast changeront la façon dont ils décrivent et caractérisent les courses fantastiques dans les futurs modules d'histoire. Dans un article de blog paru la semaine dernière, les éditeurs du plus grand jeu de rôle sur table, donc Donjons et Dragons, ont expliqué comment certaines de leurs caractérisations passées ont été insensibles à la race et ont dressé une liste des actions qu'ils entreprennent pour y remédier. Dans la publication, Wizards of the Coast a expliqué que certains des peuples du jeu, les orques et les elfes noirs, étant deux des principaux exemples, ont été caractérisés comme monstrueux et diaboliques en utilisant des descriptions qui rappellent douloureusement la façon dont les groupes ethniques du monde réel ont été et continuent d'être dénigrés. Comment dirais-je Bon oui, je pourrais continuer aussi, mais... Enfin bon, vous avez compris l'idée centrale. Donc bref, il y a eu une annonce quoi, donc de Wizards of the Coast, Donjons et Dragons va complètement revisiter les questions des races, puisque vous savez que, bah oui, c'est des races qui s'affrontent. Alors, comment fait-on quand la trame fondamentale du jeu, c'est une guerre raciale? Comment on fait pour rendre ça conforme avec l'idéologie antiraciste? Bon, bah, va falloir changer certaines choses. Et donc, les orques ne sont plus démoniaques, ils sont plus diaboliques, ils sont même plus laids, apparemment. Bon, on sait pas pourquoi. Les elfes noirs, bah, ils sont plus vraiment maléfiques non plus. Bref, les notions, y a plus qu'une notion de bien, il y a plus de notion de mal. En fait, le mal n'existe plus, en fait. Alors, c'est quand même très compliqué avec des jeux qui sont manichéens, par essence, quoi. Bon, voilà. En tout cas, c'est là-dedans qu'on bascule. Sur ce, on a reçu un courrier, d'un lecteur, qui est un joueur, et qui voulait revenir justement sur non seulement cette annonce, mais ce mouvement, ce courant de fond qui balaye le monde du jeu de rôle, et qui en fait a totalement pourri ce monde-là. Alors, voici ce qu'il nous dit. Alors, le jeu de rôle, dernier rempart de l'imaginaire européen, nous dit-il. Il n'aura échappé à personne que tous les produits culturels actuels sombrent les uns après les autres dans l'abîme fémino-négroïde de la social-démocratie judéo-maçonnique. Terminator, Dark Fate, The Witcher, Ghostbusters sont autant de déceptions découlant d'un même postulat, la volonté d'annihiler les grandes figures culturelles d'alors et de les rendre compatibles avec la volonté d'inclusion de notre triste société. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Non content de mettre à la retraite ces héros de notre jeunesse, les cadres communistes qui détiennent désormais les ficelles de l'industrie cherchent à éradiquer totalement ces derniers. On retiendra bien sûr les morts expéditives de Dan Solo, de Luke Skywalker et de John Connor, envoyés dans l'au-delà en quelques pages de scénarios bâclés pour laisser la place à la Sainte Trinité judaïque. La femme, bon, lesbienne bien sûr, le nègre et le saint orifice, l'anus. Il y a quelques années, le jeu de rôle constituait encore un rempart à cette vague destructrice, mais signe des temps, il est désormais en proie au même phénomène. Alors les gens les plus éloignés du monde des sous-cultures adolescentes ne connaissent peut-être pas cette activité ludique. Je vais tenter de l'expliquer en quelques lignes. Il s'agit pour une équipe de joueurs, évoluant dans un scénario écrit par un arbitre appelé le maître du jeu, de parvenir au dénouement de celui-ci en découvrant les tenants et aboutissants de l'histoire, comme on le ferait dans une enquête policière. Les joueurs ne sont pas opposés les uns aux autres, mais doivent coopérer. Pour émuler cela, l'arbitre, donc le maître du jeu, dispose de sa force d'imagination et d'un livre de règles qui servent à déterminer la réalisation ou non d'une action imaginée par un joueur. Le support de cette mécanique est une feuille de personnage comportant des données chiffrées permettant la quantification des capacités que le joueur incarne, un guerrier, un magicien, un homme des bois, un acrobate, etc. L'action est résolue par l'addition de ces données et le résultat des jets de dés qui déterminent de manière objective la réussite ou non de l'action. L'arbitre fait alors évoluer son histoire en fonction des actions réussies ou non, et il la modifie en fonction. Le simple fait que l'animateur du jeu soit également celui qui en rédige l'histoire permet d'éviter les travers l'idéologie, mais malheureusement, l'heure est bien à la destruction de cet imaginaire et à sa perversion de l'intérieur. Les premières agressions sont apparues, comme souvent, de manière insidieuse à travers quelques publications indépendantes de la fin des années 2000. Il s'agissait pour certains de jouer à ces jeux de rôle sans dés et sans véritables règles. L'idée de vider le jeu de rôle de son solfège, donc de ses critères élémentaires, ne pouvait venir que d'un cerveau malade d'anarcho-communiste. Preuve en est donnée par l'apparition des questions de genre dans ces mêmes publications. Nous citerons à titre d'exemple le jeu de rôle amateur FRAC, se servant de l'univers de Battlestar Galactica, qui proposait de choisir son orientation sexuelle avec un tirage au sort à 4 possibilités, mettant à égalité l'hétérosexualité, la sexualité, la transsexualité et l'homosexualité. Dès lors, les imbéciles attardés émanant des pires facs de sociaux ont pris le contrôle du secteur, édition et presse, et étoffé leur rang par la cooptation habituelle. En une décennie, la plus grande boîte d'édition rôlistique, Black Book Edition, et l'un des plus vieux magazines, Casus Belli, sont désormais aux mains des pires idiots gauchistes. Vous pourrez constater l'ambiance régnante à travers le vibrant plaidoyer féministe de Damien C sur une émission de la chaîne JVTV, donc Jeux Vidéo TV, effectivement c'est sur YouTube, on peut regarder ça. Et l'imagerie n'a pas tardé à se transformer. Alors là, il communique un certain nombre d'images, de personnages, on trouve des nègres, des femmes orques, très masculines, des sorcières, ben voilà, enfin, c'est très féminin, très lesboïde, très nègre aussi, hein, voilà, et très marron, de toute façon. Et il donne un certain nombre d'exemples, effectivement, soit des bouquins, soit des personnages, etc. Quelques années plus tard, les fiers chevaliers brandissant leurs épées de lumière, les puissants barbares pourvus de leurs haches ensanglantées et les orgueilleux sorciers ont déserté les illustrations pour ne survivre que dans l'esprit des rôlistes encore saints d'esprit. La dernière étape a été de grand remplacer les joueurs eux-mêmes en les substituant par d'autres émanant de sphères totalement différentes. Résultat, les séances de jeu retransmises sur YouTube sont devenues de véritables gay pride, bien loin des parties bien burnées de notre enfance. Alors là, il donne un autre exemple. Une partie de Donjons et Dragons, j'étais vraiment choqué. Ou alors là, c'est carrément des homosexuels marrons avec des arabes. Enfin, c'est incroyable, quoi. Et c'est en français, attention. Hein. Donc des jeux de rôle avec des PD, des tout. Donc vous pouvez trouver ça, hein, jeux vidéo, TV, bon, d'autres trucs, quoi. Inutile de s'infliger la vidéo en entier, nous dit-il en citant une. Quelques passages choisis au hasard suffiront, car rien ne manque à l'appel. La progressiste végan, la blédarde éduquée, le chamelier obèse, le shintok PD, tout y est. La finitude de tout cela est très simple à deviner, briser l'imaginaire des jeunes Européens, asphyxier leur inspiration, annihiler leurs références culturelles et tout rebâtir selon des critères judéo-progressistes. Livres, films, rien ne doit être oublié, pas même le cerveau des Blancs, car nous ne nous y trompons pas, il ne s'agit là ni plus ni moins que du piratage en profondeur de l'intellect de ces derniers. Face à cet abysse de ténèbres qui s'ouvrent face à nous, une question se pose. Comment continuer à pratiquer notre passion? Premièrement, disons-nous qu'à l'instar du cinéma, tout ce qui a été produit avant 2005 est encore vierge de gauchiasserie. Les PDF des livres de règles étant trouvables gratuitement sur Internet, la vie entière ne vous suffirait pas à tous les essayer. Nous ne manquerons donc pas de matériel, d'autant plus que c'est notre imagination qui fait 75% du travail. D'autres rôlistes plus courageux accepteront les nouveaux produits après en avoir filtré les idées nauséabondes et en corrigeant les intrigues selon des critères sains. D'autres se tourneront vers les travaux de Varg Vikernes et de son jeu My Farog que l'on ne soupçonnera pas de prosélytisme gauchiste. D'un point de vue général, selon les archivistes de notre propre héritage, téléchargeons, enregistrons, sauvegardons le patrimoine des temps passés qui nous est cher, il nous sera utile lors des longues soirées de l'hiver glacial judéo-communiste qui s'annonce. Alors je remercie notre auditeur de nous avoir d'avoir partagé ça avec nous. Il se reconnaîtra. Je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui ont joué à des jeux de rôle, mais enfin c'est beaucoup plus large qu'uniquement le jeu de rôle stricto sensu, comme Donjons et Dragons par exemple. Bon, il y a Magic Card aussi, qui a été pollué par toute une imagerie négroïde, hein, pour le coup, bon, des trucs de ce goût-là. Warhammer aussi. Warhammer, ça pousse, hein, alors que le monde de Warhammer, alors là pour le coup, c'est vraiment la guerre raciale. Hein. Warhammer, c'est la trame, c'est une guerre entre races, point barre. Alors, essayer de rendre ça politiquement correct, ça va être quand même très compliqué. Mais bon, alors qu'est-ce que vous voulez dire de tout ça? Alors, il parle aussi d'ailleurs des grandes sagas qu'on a connues, comme Star Wars, qui a été intégralement détruite avec les trois derniers films. Enfin, la saga a été pulvérisée, quoi. C'est terminé, quoi. Vous voulez dire quelque chose là-dessus? Là, on n'est plus sur le culturel. Ouais,
un petit mot, effectivement. Alors, ça fait le lien justement avec le sujet précédent sur L'Oréal. En fait, L'Oréal, il pouvait se permettre ça parce qu'entre guillemets, il joue sur deux tableaux. C'est-à-dire que les consommateurs de L'Oréal, en l'occurrence des consommatrices, c'est de plus en plus des beurettes et des négresses, hein, vu que l'Occident est de plus en plus infesté par ces gens-là. Mais pour les jeux de rôle, là, de qui on parle? C'est qui les consommateurs des jeux de rôle? Bah, c'est des hommes blancs. Des hommes blancs qui sont trentenaires ou quarantenaires. Voilà. Donc là, pour le coup, on peut quand même se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a envie de détruire? Parce que c'est bien ça dont il s'agit, en fait. Pour le coup, on veut détruire le business, quoi. Et vous faites un jeu de rôle où, finalement, la race du personnage est un critère fondamental dans la bataille, et finalement, il n'y a plus de race. C'est clairement qu'il y a un souci. On a envie de buter le business, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est plus important que le business, c'est la politique qui est derrière. Et donc, laisser une guerre raciale dans l'imaginaire des Blancs, c'était trop risqué, quoi. Donc, il y a effectivement des attaques là-dessus. Je note par ailleurs que... Alors moi, je connais le jeu de rôle à travers le jeu vidéo, donc c'est une petite partie du jeu de rôle, mais... Et puis sur un temps assez limité, hein, donc c'est pas une grande expérience non plus. Mais je note que plus le temps passe, et plus effectivement on arrive à... Bah, on nous force à avaler de la propagande marxiste LGBT de plus en plus. Et comme pour Star Wars, en fait, de facto... la qualité baisse. C'est-à-dire que la dernière trilogie Star Wars dont tu parlais avec Gandalf, c'est pas non seulement de la propagande marxiste, c'est en plus c'est trois mauvais films, quoi. Et vraiment et c'est très dur de louper un Star Wars. Hein. L'univers de Star Wars, il y a tout qui est fait. L'univers, en fait, est déjà planté. Une fois que les trois premiers sont mis, c'est quasiment impossible de se planter, mais non. Eux, ils ont réussi. Et d'ailleurs, ils sont allés très très loin dans la propagande.
Oui, il y a bientôt Le Seigneur des Anneaux qui risque... Enfin, la série que prépare Amazon risque d'être complètement saccagée de la même façon, quoi. Hein, c'est...
Ouais, ouais. Et alors là, c'est un point que j'ai oublié. Mais en fait, les gauchistes, c'est des gens qui sont vraiment très prévisibles. C'est le genre de vanne qu'on faisait il y a quelques années sur « Ah, bah un jour, les gauchistes sont tellement cons qu'ils vont nous refaire une sorte de Seigneur des Anneaux où finalement,
oui,
les méchants...
Dit, ouais.
C'est des blagues qu'on faisait, quoi. Mais il y avait des sites satiriques qui étaient pondus là-dessus. Et maintenant, c'est une réalité, quoi. Maintenant, les orques, c'est des mecs sympas, super. Alors que le principe même de l'orque, finalement, c'est d'être un. C'est pas juste d'être un méchant pour atteindre un but, par exemple le pouvoir. Il est fondamentalement méchant. C'est son ADN, quoi. Il fait le mal pour le mal.
En fait, la culture est un. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et là, on n'est même pas dans la culture au sens large. C'est la culture dans le meilleur sens. C'est-à-dire le jeu de rôle, en fait, c'est quoi le jeu de rôle? Enfin, ou les jeux de rôle. Et même, si vous voulez, les jeux de quête, etc. En fait, sur quoi se base-t-il à chaque fois? C'est l'imaginaire européen. Folklorique, c'est-à-dire le folklore européen. La véritable culture fondamentale européenne, qui comporte d'ailleurs une grande part aussi de paganisme, quoi. Avec toute une série des archétypes, des symboles qui sont vraiment ancrés, je veux dire, dans l'esprit des peuples blancs et des blancs en général. Je veux dire, c'est l'expression de l'âme raciale des blancs, ça que je veux dire. Et quand on... Ce qu'il cherche avec cette refondation, cette réécriture, en fait, c'est de détruire l'âme raciale des blancs. Ils veulent les tuer spirituellement. Ils veulent nous tuer spirituellement. Et quand les jeunes jouent à ça, c'est ça qui est formidable, finalement. C'est-à-dire que quand la vie, notre vie quotidienne, elle est soit ennuyeuse, soit on a des problèmes, on a besoin d'espace de liberté, vous voyez ? On a des espaces de liberté où l'imaginaire peut fonctionner. L'imaginaire, quand l'imaginaire européen il se met en mouvement, il va immédiatement convoquer des archétypes qui sont des archétypes immémoriaux, qui vont fatalement rejaillir à un moment ou à un autre. Ça va être effectivement la figure du sorcier, mais la figure du sorcier, c'est la figure de Merlin, ou de Taliesin, si vous voulez. Le guerrier, c'est la figure d'Arthur, le roi Arthur. Ça, là, je parle juste du cycle arthurien, mais le chevalier, bien évidemment, le combattant, bien sûr, etc. Et ça, c'est toujours présent à l'état latent, si vous voulez. Donc si vous mettez votre imagination en mouvement, ça va rejaillir. Ou si vous voulez regarder un film qui vous plaît, etc., il y a toute une série de films qui vont avoir un lien avec ça. Et quand vous jouez, à ce genre de choses, en fait, vous voulez complètement oublier vos emmerdes quotidiennes, vous voulez un espace où vous pouvez respirer, un espace libre, où il n'y a pas de contraintes. Et vous pouvez renouer, quelque part, avec votre être profond, et l'exprimer. C'est ça que recherchent les petits blancs, les jeunes blancs qui s'adonnent à ça. Et eux, ils ont bien compris ça. Quand je dis eux, c'est nos ennemis raciaux. Ils ont bien compris ça. Ils ont compris, en fait, que les blancs, ça les fortifie spirituellement, ce genre de pratique. Je dis pas qu'ils deviennent des surhommes en jouant au jeu de rôle, mais je veux dire, ça leur donne une conscience plus claire de qui ils sont. Une conscience identitaire de qui ils sont. Et de ce qu'ils peuvent vouloir. Et ça, ils veulent s'en débarrasser. C'est-à-dire que vous n'aurez le droit d'évoluer que dans un imaginaire juif. L'imaginaire juif, il est très simple. Hein, c'est l'imaginaire qui est la ligne suivante, c'est opprimé, oppresseur. D'accord ? Tout se résume à cette ligne d'analyse. Hein, c'est la ligne marxiste, quoi. Donc, tout doit être réécrit. Donc, il y aura bien un mâle, mais ça sera un oppresseur. Et l'oppresseur, il aura quelle figure ? Une figure de blanc. Donc, comment vous faites si vous devez utiliser la trame de l'imaginaire européen si le mal de cette trame, c'est l'européen lui-même ? Une contradiction. Donc, ça ne peut que se transformer, là aussi, en vandalisme. Mais c'est très important de souligner, je veux dire, on a face à un phénomène qui est quand même historique, quoi. C'est-à-dire, on voit que ce truc touche autant les églises, on en a parlé un petit peu avant, que le jeu. Enfin, que le jeu de rôle avec ses références folkloriques traditionnelles. Vous voyez, rien ne peut y échapper. Tout doit être bouleversé, d'accord ? C'est quand même incroyable, et ça va très vite. Ça va très vite, finalement. Il y avait des prémices, il y avait des signaux, mais ça s'accélère, ça se coordonne. C'est tout à fait impressionnant. Là, on a fait le tour du propriétaire, je veux dire, on était la statue de Colbert dans l'Assemblée nationale, L'Oréal avec les canons de beauté, là, on est dans l'imaginaire européen avec les jeux, les églises qui doivent être complètement reconfigurées pour intégrer la ligne de lecture raciale, enfin, c'est impressionnant, je veux dire. C'est vraiment impressionnant. Et on est dans une tentative, j'insiste sur ce point, de destruction de la race blanche. Là, on n'est plus sur « il faut tolérer la différence », là, c'est « l'homme blanc doit disparaître de ses propres pays. Il ne doit plus avoir d'histoire. » Il ne doit plus avoir de dignité. C'est incroyable, quoi. Et on est face à ça. Et je crois que la question du jeu de rôle et de tout l'univers qu'il y a derrière, c'est un truc très très important. Très important. Quelqu'un veut dire quelque chose d'autre apporter un point de précision Pas spécialement.
De la chose, on a fait le tour du cercle, en fait.
Oui, je crois. Oui, je crois. Tout à fait. Bon, alors, messieurs, je vous propose de nous dire à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, mes amis.